bel enfant. Regarde la mère, l'enfant, le père. Si on a pu le mettre derrière le rocher, à la limite, on aurait pu le faire.
Oui, mais très vite. Parce que c'est toi qui va reprendre, quand même. Bon, on y va. Donc, bonsoir à tous. On va poursuivre ce qu'on avait entamé donc, le 16 mai. Toujours sur la même question, y a-t-il une essence masculin et du féminin? On a déjà eu une première proposition. Plutôt que le mot d'essence, Jean-Marie a utilisé celui de disposition. Et donc, on verra si Bernard le rejoint là-dessus ou pas. Mais donc, avant ça, vous vous rappelez sans doute que Jean-Marie avait un peu manqué de temps, et donc ce qu'on pensait faire pour ce soir, c'était que, de manière très résumée peut-être, voilà, de manière très condensée, y compris pour ceux qui n'étaient pas là, tu reprennes ce que tu avais dit et que tu conclues, que tu enchaînes toute la partie que tu avais été obligé de passer à l'as, et puis on enchaîne avec ce qui était prévu avec Bernard. Et Catherine a aussi préparé un cas, je pense. Et sinon, on continue la formule comme la fois passée. Bon. Après les interventions, on fait des échanges. Et, voilà.
Bon, mais donc, je résume rapidement la partie que j'ai pu exposer, mais quand même, ça pourra rafraîchir la mémoire. Donc, j'étais parti en fait en trois étapes que j'avais chaque fois rattachées à un auteur. Une première étape représentée par Simone de Beauvoir, 1949, donc la fondation, en quelque sorte, du féminisme, du mouvement féminin ou féministe, en 1949. Puis, une deuxième étape, une réaction, en quelque sorte, un peu, bon, thèse, antithèse, synthèse, on pourrait dire, si on était hegelien. Enfin bon, antithèse, Antoinette Fouque, une psychanalyste qui dit, mais non, il y a deux sexes, donc ce n'est... Ça ne tient pas la route de dire cette histoire, on ne naît pas femme, on le devient, donc il y a vraiment deux sexes, etc. Et puis, donc, une troisième étape qui est représentée par ce livre que, personnellement, je trouve excellent, je vous recommande si ça vous intéresse, La révolution du féminin de Camille Froidevaux, donc, publié en 2015, et l'attente d'un autre livre qui serait La révolution du masculin, avec déjà un gros embryon de discussion. Ici, le masculin en révolution. Donc, commencer à réfléchir aussi sur ce que ça implique du point de vue de la transformation. Je disais aussi, donc première chose très importante, deux choses méthodologiques. Premièrement, il y a une certitude pour moi, c'est que nous avons véritablement franchi une mutation anthropologique de grande ampleur. Nous sommes vraiment passés d'un âge de l'humanité à l'autre. On peut en discuter, bien sûr, toujours, mais ça me semble pour moi quelque chose d'absolument avéré. Par contre, ce qui est beaucoup moins avéré et qui doit être resté beaucoup plus à l'état hypothétique, à l'état de discussion, de chantier, disons, c'est ce qui va découler de cette mutation anthropologique. Donc, vers quoi allons-nous? On peut émettre des hypothèses, certains peuvent penser que ça y est, on est arrivé à un état définitif, on voit déjà plus ou moins comment ça va se configurer dans le monde tel qu'il arrive. Il y en a d'autres qui pensent que non, on est encore nulle part, on n'a pas encore avancé, il faut y aller maintenant, ça va seulement commencer la véritable fin de la domination masculine, un nouvel ère, voilà. Donc ça c'est des points sur lesquels j'insiste, je reviens simplement. Alors, j'avais essayé de montrer comment la notion de genre, c'est une notion qui permettait justement de sortir de cet essentialisme, il est partout, on y est, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, que ce soit écrit par n'importe qui, l'essentialisme, la nature c'est l'horreur, non. À juste titre, je pense, parce que donc il faut pouvoir montrer, comme le disait déjà très bien Simone de Beauvoir, que non, dans le genre humain, il y a toujours autre chose que la nature, il y a subjectivité, il y a toujours cette dimension anthropologique qui n'est pas simplement réductible à la nature, donc qui n'est pas réductible dans le cas qui n'est pas réductible au corps. Puisque c'est des corps qu'il s'agit. Mais le problème de cette évolution de genre, c'est qu'elle se radicalise et qu'elle en arrive à un moment donné à ne plus prendre en compte donc, ce soubassement corporel, en quelque sorte, le fait qu'il y a quand même des corps qui sont différents, qui sont, ont un être au monde différent, et que donc, c'est à partir de ce corps que les genres se définissent. Qui devient, bon, à un moment donné, on ne retient plus que le genre, donc toutes les études de genre, et puis les études de genre tournent un peu à vide, j'ai l'impression, dans ces derniers temps, avec ce que vous avez peut-être entendu parler, de l'intersectionnalité des luttes, c'est-à-dire toutes les luttes de toutes les catégories dominées, donc ça inclut les femmes, mais ça inclut aussi les homosexuels, qui vont toutes se rassembler pour toutes les formes de domination. Et donc, et donc tous les dominés, et donc les femmes, à la limite, sont un peu perdues dans l'histoire. Il y a la spécificité des luttes féminines est un peu disparaît, s'évapore un peu. Et puis alors, ce qui passe, je dirais, à la trappe, d'une certaine manière, dans cette nouvelle manière de voir les choses, c'est justement le corps. Or, c'est très intéressant que Simone de Beauvoir, dans son livre, le gros problème de la femme, c'est qu'elle a été aliénée à l'espèce. Parce que justement, c'est à travers son corps que se produisait, que se reproduisait l'espèce humaine. Mais donc, elle était en quelque sorte dépendante, toute complètement dépendante et incapable d'accéder à autre chose que ce que l'espèce lui dictait comme rôle. Bon, je ne reviens pas sur l'explication que nous avons donné de ce qui a permis la transformation, donc ce qui a fait qu'un monde dans lequel les rôles étaient assignés, un monde dans lequel les structures de parenté étaient essentielles du point de vue de la constitution du lien social, s'est complètement transformé en un monde dans lequel c'est l'État qui prend en charge tout ce qui est des liens constituants et obligatoires, et tous les autres liens sociaux deviennent des liens volontaires, libres, donc à la disposition des individus. Et donc la nouvelle famille, les nouvelles familles en l'occurrence, sont des familles privatisées, désinstitutionnalisées, et donc on est arrivé à produire le lien de société autrement qu'en passant par les structures de parenté, ce qui avait toujours justifié donc justement cette domination masculine par le passé. On est arrivé alors dans ce franchissement de 1949 à 2015 à peu près, on a l'impression, dit Camille Froidevaux, que alors que le corps donc, signifiait l'aliénation à l'espèce, on a l'impression à la fin que justement le corps n'existe plus. Donc d'une certaine manière, on raisonne comme si le corps n'avait pas d'importance. Et c'est bien là un des problèmes de... Donc on est dans une contradiction en quelque sorte, puisque une des choses qu'on disait dans la réappropriation de son corps, c'était « je suis mon corps », une espèce d'identification très forte, subjective, à son corps, qui se transforme en « je ne suis pas mon corps, mais alors bon, qu'est-ce que je suis ? Est-ce qu'il y a une âme ?» Donc, il y a une espèce de réinvention de l'âme, de l'idée d'âme, donc une entité séparée du corps dans ces nouvelles études de genre. Voilà, j'ai l'impression d'avoir refait à peu près le résumé. Donc, je ne reviens pas sur les disciplines à travers lesquelles tout ce mouvement féministe a avancé. Donc l'anthropologie, tous les états de la psychanalyse et les études de genre. J'en viens alors directement à la dernière partie qui était de, une fois ces constats avérés, donc nous pouvons quand même redécouvrir les différences entre masculin et féminin, mais alors sur le mode de la disposition. Alors là, le chantier est ouvert et donc c'est là que nous pouvons écouter justement non seulement tout ce qui peut se dire sur le sujet. Simplement, pour un peu ordonner la discussion, je reprendrai les quatre catégories que, à partir desquelles Camille Froidevaux propose de poser la question, donc d'ouvrir le chantier, quatre catégories qui relèvent de ce qu'on appelle la phénoménologie. Hein, c'est-à-dire la phénoménologie, c'est-à-dire simplement l'expérience. Donc il y a une expérience du masculin, il y a une expérience du féminin, où la corporéité, évidemment, le fait que nous sommes des êtres incarnés, a une très grande importance. Bon. Elle propose de quatre catégories de l'expérience que nous vivons tous, le temps, donc commençons par l'espace, le temps, l'image et la relation. Ce sont les quatre catégories fondamentales. Alors, nous sommes tous exposés à ces quatre dimensions de l'expérience. Alors, est-ce qu'il y a une manière différente des femmes et des hommes de se situer dans l'espace? Elle donne des études, mais les femmes ne lancent pas la balle, par exemple, de la même manière. Elles ne sont pas situées de la même manière dans l'espace. Enfin, bon, etc. Ouais. Le temps, je n'insiste pas là-dessus. Le temps, c'est assez intéressant. Quand elle prend la temporalité de la vie, donc elle montre quand même que la femme est beaucoup plus soumise à la temporalité et qui relève de la perte. Elle perd, d'une certaine manière, c'est les premières menstruations, donc un sentiment de perte, puis après elle perd sa virginité, puis dans l'accouchement elle perd son enfant, puis après elle perd la capacité de procréer, donc sa vie est quand même rythmée, beaucoup plus que l'homme qui lui peut avoir le sentiment dans le temps que, d'une certaine manière, la paternité ça ne s'arrête jamais, et il peut très bien aussi ne pas véritablement vivre la fécondité comme une possibilité réelle, ne pas savoir que cette expérience de son sexe a à voir directement avec la fécondité. L'image de soi, elle, évidemment, c'est très important, puisque j'avais pris la dernière fois Manon Garcia, ici, non, c'est pas ça, j'avais pris le Manon Garcia, donc ce livre, Les femmes on ne naît pas femme, on le devient, c'était la phrase de Simone de Beauvoir, et la phrase de Manon Garcia, c'était on ne naît pas soumise, on le devient. Mais son argument de soumise, c'était essentiellement soumise à quoi? Soumise aux images véhiculées par la publicité, etc. Donc, par exemple, les femmes sont devenues esclaves aujourd'hui, elles étaient soumises aux hommes auparavant, mais elles sont soumises à quoi? Au fait qu'elles veulent toujours se faire belles, qu'elles passent un temps énorme à se parer, etc. Et Camille Froidebeau, c'est vrai, factuellement, je pense que c'est quand même vrai, statistiquement et généralement. Mais le problème étant de Camille Froidebeau et ses interprétateurs disant mais non, c'est vrai, il y a ça, chez la femme, une recherche de se faire belle, de la séduction, mais c'est dans son image, c'est son rapport avec elle-même qui est important là-dedans. Ça fait partie de son identité. Elle considère que c'est son rapport à elle qui l'amène à adopter ses attitudes. C'est pas du tout qu'elle se soumet à la publicité, à des images, etc. Bon, c'est vrai en partie, mais ce n'est pas ça. Ça ne dit rien véritablement de ce qui se joue dans c'est vrai, ce qu'on peut constater dans toute la société, la mode, les médias, etc. Donc il y a une mise en évidence de la beauté féminine et de la séduction qu'elle est capable d'exercer par cette approche. Et la dernière dimension, donc c'est la dimension de la relation, et là, la question est-ce que avec la maternité, la femme ayant porté l'enfant, est-ce que la maternité rend la femme plus disposée à entrer dans une relation et à reconnaître un autre, puisqu'elle d'abord elle est en relation avec un autre en soi. Donc c'est en soi, mais c'est un autre qui est en elle, dans la maternité, dans la maternité. Donc elle serait un être qui aurait plus le sentiment de son corps que l'homme, qui serait plus un être incarné, dit-elle, et un être en relation, et plus capable de relation. Ouais. Alors elle dit très bien, attention, elle n'a pas dit que les hommes sont égoïstes, les femmes sont altruistes, non, c'est pas comme ça que le problème se pose. Mais il y aurait une disposition plus grande à la relation. J'ai juste oublié dans ce résumé de dire une seule chose, je termine par là, mais c'était tellement évident, c'est que, évidemment, cette mutation entre ce qui explique la différence entre Simone de Beauvoir et Antoinette Fouque, on ne peut pas rendre compte de cette différence sans rendre compte du fait qu'il y a eu entre les deux, véritablement, la maternité qui n'apparaît plus comme un destin, mais qui apparaît comme un choix. Donc, et de plus en plus, donc, Antoinette Fouque qui valorise le destin maternel, et maintenant c'est voulu, c'est choisi. Ça peut faire partie d'un plan de vie, etc. Ça peut être choisi ou refusé. Mais il y a quand même quelque chose, une disposition dans le corps qui... je laisse la discussion dans cet état-là. Je pense qu'on va continuer avec...
Comment tu expliques qu'au niveau du corps, après Simone de Beauvoir, il y a clairement une affirmation des femmes qui commencent à s'habiller comme un homme.
Hein, qui a quoi
qui commence à s'habiller comme un homme, qui met des pantalons, qui met un costume. La femme des années 70,
60,
80. Et que maintenant, on est dans quelque chose de complètement différent. Qu'est-ce qui s'est passé là pour que, j'ai envie de dire, il y ait une reféminisation de la femme au niveau du corps hein,
parce que la reconnaissance.
Non, j'aurais dû le dire, mais c'est parce que c'était tellement implicite dans tout ce que j'ai exposé que je n'ai même pas pensé à le réexposer. Mais c'est le fait que le moment de septembre, c'est le moment de la convergence des sexes. La dernière fois, tout à l'heure, je vais raconter mon histoire. Donc là, il y a une mode unisexe à un moment donné. C'est vrai que je me souviens très bien. À ce moment-là, il y avait beaucoup de femmes avec des chemises très larges dans la Woodstock, White, etc.
Sur la période.
Et puis, on a constaté par après. Et donc, le mouvement de la mode correspond au mouvement anthropologique général. C'est-à-dire, on est d'abord allé vers la convergence des sexes, des genres, la convergence des genres, puisqu'on dit tout sexe maintenant. Et dans un deuxième temps, on se rend compte quand même qu'il y a des différences et on a envie de marquer ces différences. Et donc, c'est un mouvement.
Qu'il y a des différences ou que tu as une féminisation des hommes.
Non.
Qu'il y a une féminisation.
Ça serait revenir à la perruque au début.
Qu'il y a une expérience du féminin qui est différente et qui doit se manifester d'une certaine manière, qui n'exclut pas qu'on peut. C'est-à-dire, c'est le problème de la liberté. On peut à certains moments. Les femmes peuvent encore décider de s'habiller avec une cravate comme on les voyait, comme ça, un veston, etc. Elles le font beaucoup moins.
C'est 80, ça.
Hein? Ça, c'est déjà
80. C'était 80-90, ça.
Voilà. Au moment de néolibéralisme, madame Gérard, etc.
Oui, c'est ça.
Mais donc la différence revient, mais sur un nouveau mode,
voilà,
qui est le mode de la subjectivation. D'ailleurs, on pourrait dire que c'est là-dessus, il y a la même chose avec les personnes d'origine immigrée avec les identités, c'est la même chose. Ça revient, mais à travers un prisme complètement différent d'auparavant, puisque c'est pour être un sujet, il faut aussi être un sujet incarné, donc d'un sexe, et si tu as une origine étrangère, ton origine étrangère aussi.
Mais quoi ?
Oui. Ça fait partie de l'affirmation.
Oui, il avait été dit dans un de nos séminaires, effectivement, du temps de la domination masculine, la distinction homme-femme passait entre les hommes et les femmes par l'institutionnel, je dirais, le symbolique. Mais à notre époque, elle passe par l'individu de droit qui, au cœur de lui-même, choisit ce qu'il croit être, ce qu'il se montre.
Mais il y a donc une signification, donc c'est toujours, on est toujours dans le symbolique, puisqu'il y a une signification qui est justement de marquer que
subjectivement, je
m'inscris, ce n'est pas simplement quelque chose qui m'est donné. Bon,
voilà.
En tant qu'individu de droit, l'individualisation, c'est un processus extérieur. On vous donne des droits et donc vous acquérez des droits, vous les appropriez. Mais donc, c'est subjectivement, je m'empare de cette nouvelle manière d'être au monde et je manifeste sous différents angles.
Oui, c'est l'idée que tu peux en fait choisir ton genre.
Oui, c'est ça. Mm. Ben, c'est, et donc avec le transgenre, les opérations, ce que tu veux. Tu, hein,
c'est... Mais je crois que c'était quand même important de bien retracer tout ce parcours pour qu'on, parce que justement, un des problèmes aujourd'hui dans ces domaines, c'est souvent ce qu'on vit dans une espèce de présent absolu et on ne voit pas très bien. Et donc vous avez par exemple cette affaire de la rupture anthropologique que ça représente, alors que ça me semble une évidence criante pour n'importe qui. Vous avez encore beaucoup de trucs aujourd'hui dans lesquels on est. C'est un peu ce phénomène que disait Philippe Muret. On est en Europe pour l'instant, on a l'impression qu'on est sorti de l'histoire. C'est comme si on n'était plus dans l'histoire, c'est comme si on était dans un monde et on n'est plus dans. Et donc c'est d'autant plus important aujourd'hui de retracer les parcours par lesquels on est arrivé pour savoir où on en est, comment on en est arrivé là, et sur quelle base on est en train d'édifier le nouveau monde.
Ce qui a changé aussi, c'est qu'on travaille à l'image de l'homme, enfin, sur l'image de l'homme, on soigne l'image de l'homme. Mais par la pub et tout ça. Actuellement, non ?
Tu trouves ?
Bah, je sais pas.
En fait, l'image de l'homme a complètement changé, quand même.
Elle est justement totalement à l'inverse. Regarde, l'image de l'homme, il ne fait que de la merde. Il pisse dans son lavabo, il fait.
T'as choisi l'image qui est
ouais, mais il y en a tout le temps. Mais non, mais
le. Vous en montrez d'autres d'images, hein. La femme, elle est écrasée par l'homme, tous les pubs.
Non, mais je veux dire l'image.
C'est une physique, hein.
Extrêmement.
Et vous regardez pas souvent les pubs, hein.
Ah, ben justement, si. Et je la regarde depuis, je peux vous en montrer un paquet.
Si vous voulez, je peux vous en ramener.
Ben, on va pas faire. Non, mais je pense que s'il y a bien un lieu dans lequel l'homme est régulièrement décrié par rapport à la femme, je crois que c'est la pub. Moi, je peux en montrer ici.
Je ne crois pas qu'il est décrié, mais en tout cas,
il est vraiment montré ridicule. Tu trouves, toi,
non, il y a plein de pubs pour les hommes dans le sens, tu vois, les vêtements, le parfum,
l'image photo,
le côté, tu vois.
Moi, je parle ici de la place de l'homme dans la
vie. Non, pas la place, on parle justement de ce côté féminin.
Voilà, oui, c'est ça, tout ça. Oui, ça, oui, c'est le parfum, ça, c'est clair. Là, ça va dans la convergence. Et il y avait des
rimes pubs. Le côté féminin, moi, je comprends. Je
suis
très débile, mais...
Eh oui, ces hommes qui sont...
Parfumés, tout ça.
Qui se parfument, qui se coupent, qui se coiffent, qui...
Qui font attention à leur corps.
Qui font... ouais, qui sont toujours très, très propres sur eux. Ils sont toujours...
C'est pas normal, non, ça peut pas être comme ça.
Ils pensent...
Je sais pas.
Si.
Attention.
Les hommes n'étaient pas comme ça.
C'est pas féminin. Ils sont propres et parfumés. De la noce, c'est sale. De la dopiche. C'est ça,
les
poils,
ça fait partie de l'abomination du masculin.
Il
ne
faut pas de féminisation des hommes en parlant de parfum.
Non, ça fait partie du retour des différences.
C'est ce qu'on voit à l'extérieur.
Il y a de plus en plus d'hommes qui portent la barbe. La barbe est revenue en deux temps. Elle avait disparu complètement.
C'est vrai que c'est la mode actuelle.
Et les femmes commencent à arrêter et les femmes commencent à se laisser pousser les poils.
Un élément historique intéressant, c'est justement l'habit masculin du 18e, hein, qui était quand même
aussi
qui était extrêmement féminin, comme ça, avec la longue perruque, les bas collants, ils étaient plus en robe qu'en pantalon, versus à la période juste avant le mousquetaire. Entre les mousquetaires et l'homme sous Louis XV, il y a...
Oui, et puis après, il y a un retour de nouveau quelque chose.
Oui, tout à fait. Mais bon, très souvent, on a dit aussi que le moment de Louis XV était une période sans beaucoup de guerre, un peu plus pacifiste, et où il y a eu l'élevement de la culture aussi, hein, les salons, les lumières, etc. Et donc, il y aurait eu quelque chose là qui s'est... Bon, il y a eu déjà un raffinement qui a été imposé par Louis XIII. Hein. C'est Louis XIII qui a commencé un petit peu
Mais quand même, il n'y a pas de fumée sans feu. Et donc, s'il y a dans la publicité une présentation de l'homme, c'est aussi parce qu'il y a dans la réalité un problème que notre Martin a bien étudié dans un texte sur la culture de l'immaturité masculine. Donc, il y a bien un certain nombre de comportements en réalité masculins qui relèvent d'une certaine immaturité. Par exemple, dans le domaine scolaire, on a les femmes réussissent beaucoup plus que les hommes, les filles réussissent. Donc l'échec scolaire est un phénomène majoritairement. Donc, toute une série de choses comme ça qui, de fait, se traduisent aussi dans la publicité. Donc, la publicité ne fait pas que inventer des mythes qui n'auraient. Voilà, elle repose. D'ailleurs, ça, quand j'étais étudiant en sociologie, Goffman, il disait toujours la publicité, vous savez, c'est l'idéalisation de ce qu'on voit dans la société. Donc c'est par les publicitaires, ils doivent comprendre. Ah, ils veulent voir ça, donc il faut leur. Si on veut vendre notre truc, il faut leur montrer
Ils sont extrêmement. Ils sont aigus, ils sont fins, ils sont extrêmement. Comment on dit, vifs, quoi, sur la chose.
Souvent, c'est les meilleurs.
Ils vendent l'illusion d'une personnalité.
C'est les meilleurs sociologues.
C'est les meilleurs sociologues.
Oui, les sociologues font de l'idéologie, alors les publicitaires font de la sociologie.
Mais quand vous parlez de l'image, hein, j'ai l'impression qu'aujourd'hui l'homme il est aussi pris que la femme par rapport à l'image. Vous parlez du temps que les femmes peuvent passer à leur corps, aller dans les fitness, les bazars, les machins, mais ça grandit comme des champignons, les gars ils sont tous là avec à se muscler, à se faire des tatouages, à s'épiler.
Ça c'est à partir des années 80.
J'ai l'impression qu'aujourd'hui un homme passe à avoir plus de temps qu'une femme à
un beau.
Aujourd'hui, il passe plus de temps à se faire beau que à essayer. Enfin,
je pense qu'il y a plus. Il y a... Non mais je pense.
Bon, mais ils sont beaux tout court, pas par exemple.
C'est la. On a vu effectivement. Je me souviens très très bien. À partir de 85, on a commencé à voir plus d'hommes. Je me souviens très bien. 86, 7. Regarder des vêtements dans un magasin comme ça m'a frappé, je vois très très bien. Et donc c'était l'époque, souvenez-vous, où il y avait des pantalons écossais et des chaussettes blanches, vous vous souvenez de ça? Donc c'est 85, le look coco, tu as le look coco, hein, 85. Donc là oui, il y a eu une montée du look à un certain moment qui a été évidemment fort, le rapport à soi, s'embellir, etc. Ça c'est très juste, il y a une.
Mais
tout ça se fait dans la liberté. Dans la liberté, mais la liberté, ça ne suppose pas que. Ça suppose quand même qu'il y a des courants. Alors le problème, c'est d'essayer de dégager ces courants qui ne sont jamais dans une société d'individus libres. C'est jamais des déterminations, des trucs. Bon, mais alors les courants, c'est ça que j'essaie de dire. Mais ils sont évidemment contradictoires. On peut avoir des tendances contradictoires ou bien des changements. Ça, c'est la définition même du moment où on est. Mais je crois que probablement, petit à petit, le paysage va devenir un peu plus stable. Mais pour l'instant, dans tous les domaines, on est dans tout le temps.
Oui, donc les hommes sont des sujets comme les autres, puisqu'on a parlé de la femme comme sujet. Et donc, de nouveau, pour s'affirmer comme sujet, on va retrouver tous ces comportements-là, y compris d'ailleurs quand il s'agit, par exemple, de porter des signes qui étaient classiquement masculins, comme la barbe, mais qui renvoient plus à quelque chose d'institutionnel. Par exemple, la longue barbe du hipster, c'est plus la barbe du patriarche, quoi, ça renvoie plus à cette symbolique-là. C'est complètement détaché de ces statuts et de cette symbolique-là de quelqu'un qui... oui, le patriarche, c'était quelqu'un qui procréait, donc qui avait beaucoup d'enfants, au sens où il allait assurer la reproduction biologique de la société.
Mais le look masculiniste macho, il est quand même assez rare. Moi, je ne me connais pas tellement. Regardez ici, par exemple, je n'en vois pas. Je crois qu'on pourrait...
Il
paraît qu'il y a besoin de couilles.
Mais ça existe, il y a des mouvements masculins, c'est sûr. Ça, il y en a.
Ils sont oui, en termes d'image, il faut voir aussi à quoi ils ressemblent. Parce que parfois, ces masculinistes, c'est comme les leaders du Belang ou de. tu vois, ça va être en costume.
Le
genre idéal, quoi, tu vois, ça va pas être nécessairement le masculiniste, le mec qui est bourré de poils et qui.
Non, et puis ça, de nouveau, ça reste un choix personnel, si tu veux, ça n'a rien
voilà,
d'institutionnel.
Voilà, c'est ça.
L'institutionnel va vers l'égalité, on va dire l'égalité entre masculin et féminin.
Oui, et comme
pour avoir l'égalité entre le masculin et le féminin, on a l'impression que pour le moment, c'est probablement le féminin est plus mis en avant, plus amené.
Oui, puis on peut faire des débats sans fin sur un vrai homme, c'est un mec sale, et que s'il est propre, il se féminise. Mais en fait, le dandisme, c'était quoi? C'était déjà des mecs qui prenaient soin d'eux. Donc,
oui. Et à l'inverse, il y avait Georges Sand. Qui était la femme qui fumait le cigare.
Mais c'est quoi un homme, un vrai homme?
Non, c'est bien.
Mais justement, il n'y a plus de définition.
C'est ça. Non, ouais.
Le symbolique est plus explicite, donc il n'y a plus une norme qui est claire pour déterminer ce que ce serait. Oui. C'est en travail. C'est un chantier.
Un jour, on a plus de définition.
D'un point de vue biologique, oui, ça, éventuellement.
Non, s'il y a déjà une définition biologique,
ça vaut
50% de la définition.
Oui, ça, on pourrait se mettre au clair et d'accord sur la dimension physiologique ou neurologique. Oui, ça on peut, mais ce n'est pas la question dont on parle ici, parce que ça ne suffit pas à définir.
D'après les dernières études que j'ai lues, ça représente 50% de génétique. Et une méta-analyse qui est parue dans Nature. Là-dessus, on estime que, contrairement à ce qu'on disait, la génétique, ça représentait que 10-15%. Enfin, quand j'ai fait les études, le reste était culturel. Et maintenant, une méta-analyse sur plus de 15 000 études arrive à la conclusion que c'est 50% du comportement et des traits.
Mais donc les 50 autres%, c'est pas ça?
Non, mais je veux dire ça.
C'est pas encore ça.
Ce qui compte, c'est la culture.
Oui, c'est ça.
Quand Simone de Beauvoir dit on ne met pas femme, on devient, c'est culturel, il n'y a pas de biologique là-dedans, quoi, dans cette phrase.
Mais si on fait la même étude chez les chimpanzés, ça donne quoi?
Non, toutes les tendances coexistent. D'ailleurs, dans l'idée construction sociale, la réalité est construite historiquement, donc c'est la place de l'histoire dans toutes ces redéfinitions et redéfinitions, mais il y a par ailleurs un fort courant en sciences sociales aussi, un naturaliste, c'est un courant très puissant. Depuis les années 80, vous avez toute une série de choses qui paraissaient acquises, comme par exemple le fait qu'il y avait bien un domaine humain qu'étudiaient les anthropologues, j'en ai un peu parlé la dernière fois, et puis qui maintenant... on dit, ben non, on s'intéresse à aux neurones. Mais quand on essaie d'avoir une vue d'ensemble de ce qui nous arrive, on voit quand même que les femmes sont, dans la convergence des genres, ça me paraît ça, quelque chose de réel et de solide. Donc quand je monte dans un avion, le capitaine est une femme, je n'ai pas moins confiance en me disant est-ce que ces neurones sont bien capables de réagir à des situations d'urgence. On peut constater qu'il y a aussi il y a quelques métiers où les femmes ne s'aventurent. Par exemple, en Formule 1, il n'y a pas de pilote de Formule 1.
Il y a eu François Hardy dans le... François Hardy dans le film à l'époque, mais...
Même pas. Bon, parce qu'on
va dans le sport en général,
si
on regarde le sport, si on prend la question du sport, je veux dire, les hommes sont beaucoup plus payés que les femmes. Maintenant, on parle de qualité. Ça coûte millions quand même, je veux dire, les différences. Hein, c'est pas anecdotique.
Une joueuse de tennis, par exemple.
Comment?
Une joueuse de tennis.
Elle gagne moins qu'un joueur de tennis et au football et au machin.
Oui, mais tu as entendu, par exemple, il y a quelqu'un qui veut que. Tu sais que maintenant. La finale dames Roland-Garros, c'est le samedi, et les hommes, c'est le dimanche. Eh bien, j'ai entendu qu'une année sur deux, maintenant, on voulait que ce soit les femmes le dimanche et les hommes le samedi. Tu vois, de nouveau, exactement dans la même idée de...
Ça ne posera aucun problème.
Mais c'est ça, c'est quoi le problème?
Non, mais les hommes ne se sont pas arc-boutés par rapport à cette mise en égalité.
Oui, puis surtout dans nos sociétés, ça n'est plus un argument légitime de fonder, par exemple, la différence salariale sur une essence masculine ou féminine.
Oui, mais qu'est-ce qui fait,
d'accord, oui, parce que... Alors là, il y a deux hypothèses possibles, c'est un résidu. C'est un résidu parce qu'il y a des... Ou bien, ça tient aussi à d'autres choses que... Parce qu'il peut y avoir des tas d'éléments qui déterminent un salaire.
Mais il y a des pays en Scandinavie, en Islande, ils ont complètement interdit ça et ils sont arrivés à l'égalité salariale totale entre les hommes et les femmes.
Oui, justement, c'est une
question politique.
Non, mais il faut une égalité de salaire pour aussi le même travail. Donc il y a aussi tout des analyses qui montrent qu'il faut comparer ce qui est comparable, qu'on ne compare pas toujours ce qui est comparable non plus. Il y a beaucoup plus de temps partiel chez les femmes, par exemple.
Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de crèche, parce qu'il n'y a pas de...
D'accord, mais ça, personne dit le contraire. Ok,
il ne faut pas partir sur les...
Pour comparer, c'est comparable. Elles négocient moins bien leur salaire en privé.
Non, mais le problème, par exemple, ici, il y a une étude faite par Monique Dagnot. La niche Internet. Je ne vois pas. Donc, son Internet, une passion masculine. Pourquoi est-ce que tout ce milieu d'Internet, c'est en fait, elle constate que c'est des hommes. Bon, évidemment.
Elle dit, tout le monde va sur Internet, les hommes et les femmes, mais ceux qui ont conçu la chose, ceux qui codent, ceux qui encadrent, tout ça qui normalise, c'est les hommes.
Et c'est l'amour de la machine.
Oui, mais peu importe.
C'est une configuration
neuronale. Je veux dire, ça, c'est quand même des nouveaux
objets. Je crois que c'est parce qu'il n'y a qu'un homme pour être assez obsessionnel pour commencer à faire 3 millions de lignes de code.
Mais peut-être, dans tous les cas, on constate.
Bon, peut-être que les hommes, les femmes n'ont pas les hommes qui leur lâchent. Ils veulent leur question, quoi.
On va avancer. On pourra revenir là-dessus éventuellement sur les caleçons, les culottes. D'ailleurs, ils sont en caleçons, là, tu peux les montrer, tes amants.
Mais Jean-Marie, tu avais dit que je reprenne un petit peu ce que Diane avait dit. Je me disais, bon, peut-être quand Diane a présenté
il faudrait peut-être résumer pour ceux qui ont compris.
Oui. Donc, enfin, Diane a parlé des papas guili-guili. Hein, donc, voilà. Alors, moi, je pense effectivement que, on peut en rire, évidemment, mais je pense qu'il y a quand même une sorte d'impératif implicite à développer un positionnement plus de l'ordre du maternel que paternel dans la culture. Et je prends par exemple, bon, ceci c'est extraordinaire, donc c'est le couple, c'est Claire et Laurent, hein, et on voit donc la naissance de leur petit enfant, et on voit la mère avec le père au niveau de l'enfant, hein, qui fait visiblement guili-guili. Si là il ne le fait pas, je ne sais pas ce qu'il fait. Hein. Ça tranche quand même assez fort avec cette image de Léopold III à Street.
Ça fait retourner, je sais pas,
hein, si vous... Oui, d'accord. Et on voit effectivement, je dirais, il y a quelque chose de l'ordre de l'impératif à devenir maternel. Je crois que le livre de Corneau, Guy Corneau, allait clairement dans ce sens-là. Hein, ou bien alors, par exemple, ceci, on ne peut pas faire beaucoup plus.
Hein. Pas de père absent, fils manqué, là.
Oui, c'est ça, fils manqué, père manquant.
Fils manqué, père manquant, c'est plutôt ça, oui. C'est manquant. Hein.
Donc voilà, je pense qu'il y a une sorte d'impératif, je dirais, à se développer du côté de la maternité. Bon, je pense par exemple aussi sur un faire-part de naissance qui date de 2001, donc on est presque à 20 ans, il est mis pour l'enfant, qui se présente bien sûr lui-même, ça on sait bien, mais il met mes marraines, il n'y a pas de parrain. Et voilà, il y a deux marraines, mais il n'y a pas de parrain. Hein, voilà le genre de choses.
Donc
voilà. Hein, et moi, je me souviens toujours, je ne sais pas si je l'avais dit à Fancy, mais dans une thérapie de couple, je me souviens que la, la dame dit à son mari, mais tu devrais être plus père avec tes enfants. Et alors je lui demande, mais qu'est-ce que vous entendez par là? Et elle me dit, alors elle dit, alors se tournant à son mari, mais que tu leur parles de ses émotions, que tu les prennes, que tu fasses des câlins, que tu les prennes sur les genoux. Autrement dit, double louche de maternelle, quoi. Donc il y a une sorte de
l'endoctrinement,
oui, c'est ça,
maternelle a pris
une place extraordinaire. Par exemple, un meilleur vœu, ça de 2007, hein, on voit vraiment une famille qui se présente, la mère en avant avec le fils, le père est derrière le rocher, enfin devant le rocher, on aurait pu le mettre derrière, qu'on aurait fait allègrement. Hein, on voit vraiment, là, plus clair que ça, il n'y a pas. Enfin, hein, donc on sent, voilà, pour reprendre ce que dit Jean-Marie, que le pôle maternel est, comment dire, impératif c'est peut-être un peu trop fort, mais une espèce d'invitation forcée, je dirais, ou quelque chose comme ça, du côté du maternel, et certainement pas du côté du...
Qu'est-ce que vous disiez ici sur la...
Ben oui, le père, il est là à gauche, on aurait pu le mettre derrière le rocher, que c'était encore mieux. Hein, comme ça, au moins c'était clair. Il y avait les enfants et la mère.
La mère est au centre,
mais devant. Si tu regardes bien, elle est dans un plan vraiment antérieur.
La mère et les enfants sont devant.
Oui, tout à fait.
Ils sont tous en avant-plan.
Le père est derrière. C'est la famille.
Donc, une famille, c'est ça, puisque bon, l'homme est une femme comme les autres. Enfin, vous connaissez. Ces éléments-là qui sont quand même importants, hein, et justement qui se trouvent dans la publicité, comme vient de le rappeler Jean-Marie, ou qui se trouvent dans les films. Hein, par exemple, le fameux film, elle lui apprend les bonnes manières, il lui apprend les mauvaises. Je dois le retrouver, c'était avec Vincent Cassel, je ne sais plus comment ça s'appelle ça. Alors, tout ça est redondant, il ne faut pas être très au clair, enfin c'est pas très compliqué d'avoir observé ça, sauf si on a une carte à vie à la Libraille. Bien, donc, moi justement, ce qui m'a été demandé, c'est peut-être de faire part de deux, trois petites bricoles, je ne vais pas vous prendre trop de temps. Mais moi en tout cas, ce qui m'a vraiment frappé dans ma clinique, bon ça fait quoi je fais de la psychiatrie depuis exactement 40 ans, 41. Y a-t-il une essence de masculinité? C'est ça. Hein, et donc, dans le décours de ma clinique, bon, ayant vu beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, ayant vu des couples, ayant vu aussi des groupes de femmes, d'hommes, ayant fait des ateliers sur le masculin et le féminin, etc. Voilà, il me semble qu'on peut retirer. Alors, moi, je trouve le terme que Jean-Marie a dit la fois passée et que tu as repris maintenant, la notion de la disposition, ça je pense que c'est le mot le plus précis et le plus juste, je dirais, qui peut être comme ça. Alors, mais je pense, et là ça vient peut-être dans ce qui se dit à propos du génétique, je pense que une disposition, par définition, va déboucher sur un comportement. Et que le faire, la répétition d'un comportement, à mon sens, va dans une sorte de, hein, par le biais d'une neuroplasticité, va commencer à s'inscrire neuronalement. On le voit bien d'ailleurs dans la pathologie. Quand on commence à être obsessionnel par exemple avec certains rites, il y a quelque chose qui fait qu'on en devient prisonnier, parce qu'à mon sens, sur le plan physiologique, il y a un bazar qui est lancé, quoi. L'anorexique, c'est prototypique. Donc hein, je pense qu'il doit y avoir quelque chose dans le fait de répéter, hein, et donc manie, toxicomanie, hein, manie c'est la répétition, c'est pas l'état maniaque.
Répétition, voilà. Mais imitation au départ.
Par exemple, voilà, hein, tout à fait. Et quand on répète, et puis que tu es invité de par la place que tu as à faire comme ça, hein, tu le répètes, donc tu vas l'incorporer à un niveau neurophysiologique. Et il n'est pas exclu qu'il y ait justement alors le phénomène d'épigénétique qui fait passer ça du côté d'un capital énergétique qui se transmet. Voilà. Moi je pense que c'est un peu comme ça. Donc, partir de la disposition d'imaginer
de l'inscription,
voilà, de l'inscription neuronale et de la constitution d'un Donc, moi, je crois l'avoir déjà dit dans le précédent séminaire, mais peut-être tout le monde n'était pas là, mais je pense que le bel exemple, c'est les chiens de troupeau, quoi. Le premier border collie, à mon avis, il ne savait pas faire, il ne savait pas nécessairement, il n'avait peut-être pas cette disposition spontanée, automatique, à aller derrière les chiens de troupeau. Or, si vous mettez un border collie devant un troupeau, il va commencer à travailler, un berger des Pyrénées aussi. Vous mettez un Rottweiler, non, hein, il va pas le faire. Un Shiba Inu non plus. Enfin, hein, donc, il y a comme ça des choses qui... Or, justement, ça se transmet, hein, quand on voit les...
Oui, mais on dit bon chien chasse de race, par exemple.
Oui.
Et ça te montre vraiment que la race va faire, c'est inscrit génétiquement,
oui.
Et que les comportements sont acquis au niveau de la nature et pas, c'est pas justement un comportement acquis.
C'est pas acquis à cette génération.
C'est ce qu'on appelle les comportements propres à l'espèce.
Si tu n'éduques pas le border collie, il ne courra pas après les moutons.
Oui,
je ne suis pas sûr que oui.
Moi j'en ai un, moi je dis qu'il ne court pas après les moutons.
C'est que tu l'as éduqué pas avant. Parce que tu n'as pas appris. Mais si tu lui apprends...
Est-ce que tu l'as déjà mis devant
un... Ils ont des dispositions, mais il y a besoin d'un appareil.
Peut-être bien, oui. Alors, voilà. Alors, peut-être effectivement... c'est possible qu'il faut peut-être une... il y a peut-être une invitation qui doit se faire, et je pense que pour les humains aussi. Quand on rentre dans une société, la façon dont fonctionnent les codes sociétaux va devenir des invitations à déployer cette situation.
Oui, mais il doit y avoir quelque chose d'inscrit, je dirais, au niveau génétique. Ouais. Un chien de garde, tu ne feras jamais d'un chihuahua un chien de garde, quoi. Tu vois,
c'est... D'accord. Bon, mais...
Et encore, tu serais peut-être étonné. Enfin bref, on va peut-être revenir dans l'humain.
Si on revenait du chien à l'humain, parce que moi quand même là-dedans, je me demande quelle est la place que tu laisses là-dedans au fait que tu as quand même toute une série d'êtres humains qui vont être dans cette répétition de comportement, ça va s'inscrire physiologiquement, comme tu le dis, mais qui peuvent sortir de cette répétition de comportement et entrer dans une autre répétition de comportement.
C'est justement moi ce que je voulais. Oui. Je voulais aller abonder dans ce sens-là, mais pour préciser, parce que à partir de Camille Frottebeau, bon, elle dit par exemple la maternité. C'est clair que c'est seulement une disposition, puisque les femmes sont libres de choisir d'être mères ou de ne pas être mères. Mais la différence avec les hommes, c'est qu'elles doivent le choisir. Donc elles vont devoir se poser le problème, est-ce que je veux être mère ou pas mère? Et si elles ne veulent ne pas l'être, elles vont quand même devoir faire un travail intérieur pour le fait de dire, je vais renoncer à être mère. Et puis quand elles arrivent à 35 ans, par exemple, elles vont se demander, mais bon, est-ce que vraiment maintenant, bientôt la limite va être passée? Ou alors on a des stars qui vont faire des enfants jusqu'à 55 ans avec des techniques comme on voit maintenant Donc il y a toujours la question qui est posée de, par exemple, du fait que dans mon corps, je pourrais être mère ou je ne veux pas être mère. Donc c'est ça la disposition.
Ah oui, ce n'est pas nécessairement... Oui,
alors,
d'accord.
Soit je peux entrer dans cette disposition et puis après acquérir...
Voilà.
Voilà.
Mais attention, quand je parle ici du bagage génétique, ça ne veut pas nécessairement dire que ce bagage va se déployer dès le début et inévitablement. Par exemple, dans les pathologies où il y a une transmission génétique, par exemple, prenons la maniaco-dépression, eh bien, ça ne se déclenche pas nécessairement à 6 mois.
Non.
Il y a tout un silence clinique, donc il y a effectivement, il faut, je pense que la mobilisation de cette incorporation, si je peux appeler ça comme ça, elle se fait à un certain moment, mais oui, probablement à 6 ans, la petite fille ne pense peut-être pas à la maternité de la même manière, et en tout cas la question ne se pose pas de la même manière. Donc je pense effectivement, donc ce n'est pas parce qu'il y a une génétisation qu'on est dans l'éclosion automatique. Et ça donne peut-être ce que tu amènes. Il faut peut-être quelque chose qui incite à. Et je trouve que cliniquement, en tout cas, ça se fait.
Je vais abonder dans le même sens. Moi, il y a le caractère génétique,
puis la dépêche génétique. Et on constate que certains caractères se réalisent.
Oui.
On parle de prédisposition à ce moment-là. Mais pour revenir à madame, il n'y aurait pas de comportement. Enfin, c'est épigénétique. On ne peut pas dire que le comportement. On peut trouver une trace, mais il n'est pas pour ça. C'est pour ça qu'il va se réaliser, il va se manifester.
Voilà. C'est ça. Génotype, génotype. C'est ça. Hein.
Non, on peut le faire ensemble. C'est génétique et épigénétique.
L'épigénétique, c'est la mutation épigénétique. L'épigénétique, c'est une mutation.
Ah, c'est pas comme ça que je comprends.
Ah, ben, une maladie épigénétique, c'est une maladie où on. Après la naissance, on mute des cellules et qui font que, on a par exemple, on mute les cellules souches de la moelle et on a une thrombocytose. C'est une maladie épigénétique. Et qui, alors la question c'est, je pense que l'épigénétique n'est pas transmissible alors que la génétique l'est.
La mutation est due à l'environnement.
Est-ce que la distinction entre génotype et phénotype, parce que le phénotype, c'est le phénomène, enfin, c'est ce qui apparaît,
oui,
c'est la mise en œuvre. C'est l'expression du génome.
Non, génotype, phénotype, c'est. Il y a le génotype qui est déterminé, on peut dire, puis il y a le phénotype, c'est l'apparition des caractères secondaires sexuels. Donc, pour moi, l'épigénétique, dans ma compréhension, l'épigénétique, c'est là. C'est le fait que les gènes se marquent réellement, deviennent apparents dans ma compréhension. L'épigénétique, c'est comment la chaîne ADN devient un bleu.
Un caractère. Ça, c'est le phénotype.
Pourquoi quelqu'un devient malade, manico-dépressif? On constate qu'il y a des prédispositions, mais même s'il y a des prédispositions, c'est pour ça qu'il sera mal écouté.
Voilà, tout à fait. C'est ça, tout à fait. C'est exactement ça que je voulais dire. C'est pas automatique.
Oui, oui, mais.
Donc il n'y a pas de comportement.
On ne remarque pas qu'il y a une. Si quelqu'un devient malade dépressif, il n'y a pas de mutation épigénétique.
Vous voulez dire que ça ne s'inscrit pas dans ce gène?
Non, ça ne se retrouve pas dans ce gène.
Ça, oui.
Son gène n'a pas changé.
Sa chaîne génétique. Sa chaîne ADN n'a pas changé.
Non.
Si vous voulez, j'ai la définition. Vous voulez? Parce que c'est assez complexe. Hein, comme... L'épigénétique est l'étude des changements d'activité des gènes, donc des changements de caractère qui sont transmis au fil des divisions cellulaires et des générations sans faire appel à des mutations de l'ADN. Autrement dit, l'épigénétique gouverne la façon dont le génotique est utilisé pour créer un phénotype.
Ah d'accord, donc c'est le mode de transmission, oui, c'est ça. Bon, on va peut-être...
Oui. C'est ce que tu disais.
Donc, je reprends. Alors, moi donc, je disais, bon, j'avais été frappé peut-être par des choses que j'ai remarquées régulièrement dans mes cliniques, puisque je vais faire comme ça, et pas uniquement dans mes cliniques, mais dans la vie courante avec tout le monde. Et donc voilà, moi je vais ici véhiculer deux, trois petites choses que j'ai retrouvées, notamment dans les écrits plutôt d'obédience jungienne. Hein, par exemple, que serait cette disposition? Du féminin, mais l'archétype du féminin peut être représenté par la vasque, l'arche de Noé. Hein, donc c'est une sorte de cuvette comme ça, avec quelque chose qui se met à l'intérieur, une sorte d'accueil à l'intérieur, où Noé reprend l'entièreté des espèces dans cette cuve, dans cette réception. Hein, et donc on peut dire que l'archétype du féminin, il est de ce côté-là. Hein, du côté de la réception qui nourrit ainsi une sorte de proche, de relationnel, comme on a déjà dit, hein, de l'union dans le un, et qui s'inscrit globalement dans ce qu'on pourrait dire une dimension ou une expérience de la proximité. L'archétype du masculin, lui, sera plus dans un rapport à justement ce qui se détache à l'extérieur, à ce qui est quelque chose qui instituera la différence et donc en tout cas quelque chose qui va convoquer, qui va nous inviter vers l'ailleurs. Hein.
Jungien disait l'animus, hein, parce que l'animus c'est l'archétype du masculin, l'animus, ça, c'est ce qui pète le plafond, disait-il. Hein, donc c'est quelque chose qui bouffe, qui ouvre vers l'ailleurs, hein, donc vers quelque chose justement de l'aérien, donc forcément de l'invisible, hein, puisque l'air n'a pas encore été vu. Hein, si vous voyez l'air, il est hautement conseillé de consulter. Hein, autant que vous ayez une bonne mutuelle. Hein. Donc voilà, donc c'est cette ouverture vers le spirituel. Et donc, autant l'archétype du féminin va s'inscrire hein, dans quelque chose de l'ordre d'une présence et d'un concret, comme Gaïa, la terre, hein, autant l'animus va être du côté de l'invisible, l'ouranos, hein, le ciel. Bon, alors c'est vrai que on peut, en regardant ne fût-ce que l'expérience sexuelle, ben, on peut voir ces mouvements, je dirais, se déployer de cette sorte-là. L'acte sexuel, la sexualité est plus un réceptacle chez la femme, une réception intérieure, et chez l'homme, ben, c'est justement une production d'une substance qui se détache et qui va vers l'ailleurs. Mais aussi, je pense que, comme ça avait été dit dans un des séminaires au début, hein, où on avait insisté sur le fait que, dans le fond, il y a eu... l'humain n'aurait pas cru que son expérience du monde se limitait à ses proches ou en tout cas par exemple sa famille, hein, donc les deux, l'homme et la femme qui créent les enfants, le foyer ou quelque chose comme ça, il a toujours eu l'impression qu'il y avait quand même autre chose que ça, hein, et qu'il y avait un ailleurs, ben, dont il fallait un petit peu se méfier aussi, parce qu'il pouvait effectivement, il y avait d'autres personnes, il y avait d'autres tribus qui pouvaient être agresseurs, hein. Et qu'il fallait aussi aller chercher quelque chose en dehors pour faire vivre la marmite, c'est le cas de le dire, hein, ou faire vivre le foyer. Et donc, la répartition se serait assez généralement, je dirais, faite avec, hein, je dirais, le pôle maternel et féminin reste près des enfants et le chasseur qui va chasser ou qui va faire la guerre pour protéger à distance, alors que justement la protection maternelle c'est une protection à proximité et pas nécessairement à distance. Alors tout ça peut effectivement se... ce que je trouvais intéressant dans ce que de Souzenel racontait, elle disait que, bon, en parlant de la bisexualité psychique, hein, qui est en tout cas très présente dans Freud, mais très présente aussi dans Jung, elle dit, ce qui est important, c'est que le masculin, quand il se détache, quand il va ailleurs, quand il va vers l'ailleurs, ce qui est important, c'est qu'il se souvienne de son féminin et qu'il revienne avec le produit de la chasse, hein, vers le foyer, et qu'il ne reste pas, je rajoute, hein, dans son, je dirais, au café, hein, et qu'on ne le voit plus dès lors qu'il s'est détaché du foyer. Et donc elle dit, c'est dans ce retour vers son féminin que la fonction de mâle s'exerce, hein, qui féconde alors l'intérieur avec ce qui provient de l'extérieur. À son tour, le féminin, dit-elle, ne devient femelle que si, et si tu viens d'en parler maintenant, Jean-Marie, ce qui est à l'intérieur peut s'ouvrir et se mettre avec l'extérieur, c'est-à-dire accoucher, c'est-à-dire se diviser. Cela signifie que le mâle donc, n'est mâle et la femelle n'est femelle que quand l'un et l'autre peuvent s'inscrire dans la représentation, le tenir compte de son inverse. Et donc là, on débouche sur le phénomène de la conjugaison, conjugalité, etc. Alors, je pense que ça, pour revenir à quelque chose de plus, des dispositions qui nous moi, il me semble avoir vu de façon assez répétitive cette disposition à convoquer l'ailleurs, à s'inscrire du côté de l'ailleurs. Moi, j'ai beaucoup vu ça dans ma pratique, hein, comme un noyau de ce que j'appellerais le masculin. Et je dirais que cette convocation du proche et justement du, je dirais du, oui, du proximal, je l'ai vu beaucoup plus à l'œuvre, effectivement, sur le noyau féminin. Mais je dis bien, je ne parle pas ici uniquement des hommes et des femmes. Hein, voilà. Alors, c'est clair, si on prend donc cette vision-là, avec cette notion d'animus, de bazar, bon, rapport à l'extérieur, donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de la séparation. Hein, quand on va à l'extérieur, on se sépare. Si on sépare, c'est qu'on divise. Et si on divise, on multiplie. Puisque si je divise en une tarte en 8, mais il y a 8 morceaux. Hein. Et c'est là que Jung faisait l'hypothèse, mais est-ce que la polygamie, qui est beaucoup plus fréquente chez les hommes que la polyandrie chez les femmes, n'est-elle pas liée à ce phénomène-là, hein, donc de la séparation et donc de la division, donc de la multiplication.
Problème de la mitose.
De la mitose.
Division cellulaire ou multiplication.
Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, donc, alors, je pense effectivement qu'il y a, quand même des choses, par exemple, dans ce rapport à l'extérieur, à pète le plafond, là, comme disait ce Jungien. Hein, allez, je dirais. L'animus, c'est vraiment une pratique de l'ailleurs. Et je pense, par exemple, dans la gestuelle avec un petit enfant, par exemple. On voit très souvent un père qui jette son enfant en l'air. J'ai rarement vu une mère faire ça. Hein? Il y a comme ça une...
J'ai toujours passé avec mes enfants, mais bon, je crois que je suis un mec.
Non, mais non.
Ça m'intéresse parce qu'en fait, je ne comprends pas, en fait. Oui. Quand il dit des trucs, je ne comprends vraiment pas. Je ne comprends pas.
Mais justement, c'est parce que justement le noyau, on a une bisexualité psychique, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose. Enfin, moi il me semble avoir observé. Enfin, je n'ai pas encore vu une mère jeter son enfant, mais c'est très bien. Ça, c'est la première. Je suis content de voir ça. Je pense, par exemple, aussi que les troubles de l'hyperactivité se voient plus aussi chez le jeune enfant. L'enfant garçon jette plus facilement un objet, alors qu'il a été souvent remarqué que l'enfant fille ramène l'objet plus facilement à elle. Et je me souviens d'ailleurs d'un psychologue, je ne sais plus son nom, qui intervenait souvent à la radio, qui disait justement, évidemment, qu'il y avait donc plus de maturité chez la petite fille, puisqu'elle la ramène à elle. Alors, on voit donc que le côté centripète, hein, est devenu justement une valeur forte, et que le côté centrifuge a peut-être perdu de son aura. Alors, je crois effectivement que moi, ce qui m'a vraiment frappé aussi, c'est de voir, par exemple, la manière dont l'autonomie pouvait se conduire différemment selon le genre, par exemple, dans le au niveau d'un couple. J'ai souvent entendu, et je l'ai rappelé la fois passée lors du séminaire ici, des femmes justement qui ramenaient donc ce pouvoir centripète, hein, de tout prendre en charge pour justement ne pas devoir dépendre, hein, ou ne pas être redevable. Hein. Je fais les choses moi-même plutôt que de demander, parce que si je demande, à ce moment-là, je suis redevable et dépendante, forcément. Alors, il me semble qu'au cœur des couples, donc, alors on a une tendance alors à une radicalisation des positions où le féminin va prendre en charge, hein, de plus en plus, et la manière d'exprimer son autonomie du côté de l'animus sera peut-être justement de pratiquer l'ailleurs, c'est-à-dire une extraction, hein, d'être en dehors, hein. Et bon, je dirais, hein, reprenons les petites images.
images, les humours à l'époque où on voyait le gars avec son journal alors que la femme fait la vaisselle. Bon, ben forcément, qu'est-ce que c'est que le journal? C'est l'ouverture vers l'extérieur, par définition. Puis après, il y a eu la télé, puis après, il y a eu l'ordi, puis il y a la tablette, le smartphone, enfin bref, tous des éléments qui montrent bien qu'ils sont des ponts ou des voies pour convoquer l'ailleurs. Et il me semble que justement, si précisément les écrans sont beaucoup plus pratiqués par le masculin, moi je le mettrais, je dirais, je l'expliquerai un peu comme cela. Avec justement le fait que c'est donc un transport vers cet ailleurs invisible, avec les conséquences que si on ne s'inscrit que là-dedans, il y a quelque chose qui ne s'incarne pas. Et je pense que les pathologies du garçon adolescent témoignent quand même d'une incarnation et d'une mise en réalité totalement manquante. Parce que justement, l'animus, dès lors qu'il s'incarne et se met en œuvre, voilà, c'est la quête, hein, c'est le départ, c'est l'exploration, hein, c'est un peu tout ce que Brel représente. Brel, c'est un animus sur pattes, quoi. Enfin, tout le temps, il est dans cet ailleurs, hein, rester, se répéter dans le concret, c'est la vieillesse, c'est le bourgeois, enfin, c'est tout ce qu'on veut. Mais donc, c'est l'ouverture vers l'ailleurs, et il y a un très très bon interview de lui où il parle de cela en termes de masculin et féminin. Voilà. Alors, je crois que ce qui est. Évidemment. Donc on pourrait dire, hein, comme ça si on veut, quelque chose de l'ordre du noyau féminin qui serait plus centripète et le noyau du masculin qui serait plus centrifuge. Et je pense, dans le centripète, je crois qu'effectivement les valeurs de l'intériorité sont très prisées, et celles qui sont véhiculées maintenant avec le rapport à soi, l'estime de soi, la confiance en soi, toute cette intériorité sociale-là est très adulée, très, très empruntée, on sent, par la gente féminine, plus, me semble-t-il, en tout cas dans ma clinique, que par la gente masculine. Alors, moi je me souviens aussi, on parlait tantôt de se soigner, hein, on parlait de... Moi je me souviens un truc qui... J'avais été chef d'unité scout, il y a une vingtaine d'années, et on visitait les camps. C'était incroyable de voir le moment de la toilette dans un camp guide et un camp scout, quoi. Le scout, il se lavait quoi? Si je l'avais sur le camp, déjà, c'est déjà pas mal. Alors que dans les camps guides, tous les soirs, ils allaient aux cheveux. C'était mais dans leur camp, mais alors là, vraiment. Bon. Voilà. Alors, donc je pense que l'écran, je crois qu'il a cette aptitude à capter l'animus, et justement, je dis bien capter, et il y a quelque chose, je crois, qui tue, le masculin, dans le fait qu'il est vraiment absorbé par cet écran. Hein, moi je parle, on a parlé tantôt d'animus, esprit, etc. Moi, j'ai toujours eu l'impression de l'esprit, dans la religion catholique, c'est l'esprit saint, c'est le pigeon. J'ai toujours eu l'impression d'un pigeon qui vient se foutre la face sur un carreau. Vous avez déjà vu ça, hein? Bang, comme ça. Et je trouve que quand je voyais mon fiston regarder la télé, hein, parce qu'à l'époque c'était la télé, c'était pas les ordi, j'avais cette image comme ça de cette extinction. Hein, de cette mort, je dirais, de la force de l'animus qui s'écrase sur un écran. Alors justement, ce qui me semble important, c'est peut-être, si on repère ces éléments du noyau masculin, du noyau féminin, je le dis bien, donc, hein, en tant que bisexualité psychique, se retrouvant forcément dans chaque individu, peut-être que c'est important de pouvoir repointer que si l'on pratique l'ailleurs, eh bien, c'est une manière de célébrer le masculin.
si on pratique la proximité, c'est une manière de célébrer le féminin. Mais ce qu'on entend souvent, c'est que justement, par exemple, pratiquer l'ailleurs, ça équivaut à fuir. Alors ça, évidemment, c'est des définitions complètement débiles. Ou bien, si on dit pratiquer la proximité, c'est être fusionnel, c'est complètement débile. Hein? Alors ça nous avait frappé quand on faisait des ateliers sur masculin et féminin. Nous avons été vraiment frappés de voir comme les femmes décrivaient le masculin comme n'étant pas. Donc le mari ne communique pas. Alors je me demandais toujours, mais est-ce qu'il ne communique pas ou est-ce qu'il pratique le silence, qui est extrêmement différent. Hein? Et donc je pense que ce qui est vraiment important, c'est de ne jamais définir quelque chose par ce qu'il n'est pas. Hein? Comme par exemple le nom marchand. La plus grande débilité qu'on ait pu produire, c'est le nom marchand. Donc, parce qu'on ne sait plus imaginer autre chose que le marchand, on ne peut décrire quelque chose que comme qu'il n'est pas. C'est comme si j'étais un violoniste convaincu, je vais au concert et je dis, j'ai vu un non-violon qui soufflait dans un bidule en cuivre, ça faisait un son un peu trompette, quoi. Hein? Voilà, quelque chose comme ça. Hein? Bon, donc, voilà. Et je me souviens même aussi, par exemple, une phrase que disait un de mes collègues, Juncker, que tu as connu, qui avait écrit un bouquin assez charmant sur la conjugalité, parce que le mot est beau, hein, conjugalité, conjugaison combinée. Il disait, bon, oui, les femmes ont toujours le souci de s'occuper de l'intérieur, des choses comme ça, alors que les hommes ont la fâcheuse tendance de toujours s'occuper de l'extérieur. Et je lui avais téléphoné, il dit, pourquoi dites-vous fâcheuse ? En quoi être concerné par l'extérieur, en quoi convoquer l'extérieur est-il fâcheux ? Hein? Et donc, on voit, effectivement, on arrive à ça. Hein? Donc, l'importance accordée au féminin maternel, beaucoup plus qu'au masculin paternel, à mon sens, voilà, à notre époque. Voilà, je ne vais pas plus loin.
Avant de passer la parole à Catherine, je voudrais quand même qu'on reposer un problème par rapport à tout ceci, mais c'est un problème de fond. Bon, donc c'est-à-dire... On a déjà beaucoup discuté du fait qu'l'humanité est passée d'un symbolique explicite à un symbolique implicite. Si on est d'accord là-dessus, il faut bien comprendre ce qu'on entend par là. C'est-à-dire qu'on a, donc par exemple, prenons dans le domaine du masculin et du féminin, ou dans le domaine du pouvoir, puisqu'on montrait tout d'ailleurs un roi, il y avait une manière dont le roi, en tant qu'il était le détenteur du pouvoir, se tenait dans une certaine posture avec sa femme, avec ses enfants, dans une certaine image. Et quand on voit le roi, le prince Laurent, c'est la famille privée, justement, qui est mise en évidence. Et d'ailleurs, le prince Laurent n'est pas vraiment un personnage non plus de... Mais il y a quelque chose qui est vrai. Je ne crois pas qu'on aurait vu, sauf des photos volées, on aurait vu Léopold ou Albert
oui.
ou dans la posture du prince Laurent. Enfin, il ne serait sûrement pas dans des grands magazines comme ça. Mais alors le problème c'est comment travailler sur ces données. Bon, Jung et Freud. Alors, c'est la même remarque que je me suis fait par rapport à Diane la dernière fois. Elle a, donc Diane, freudienne, lacanienne, parle de Lacan, donc elle est revenue avec. Bon, elle a commencé à parler des enfants et elle a mis un petit. Qu'est-ce qu'elle a mis devant elle ? Un petit phallus, quoi. En gros, puisque c'était le phallus, et puis elle a mis, comme si c'était des enfants, il y avait le petit phallus. Et puis elle a commencé à décrire tout autour de ce phallus.
Bon, il était rouge, le sien.
Il était rouge, mais en fait. Bon, mais après, je n'en avais pas de rouge. Bon, maintenant, c'est pas une critique, mais c'est quand même le fait. Mais justement, les critiques qui ont été faites en général, aux psychanalystes, lacaniens, etc., c'est que, donc, on était dans un monde de la symbolique explicite, et que, donc, dans toutes les cultures indiennes, etc., c'est clair que le phallus, par exemple, occupe une place très importante dans la culture, on en voit partout, enfin, etc. Mais, donc, témoignant d'une organisation du monde, donc, hiérarchique, entre les hommes et les femmes, Alors, le Freud et Jung, ce sont des auteurs intermédiaires. L'époque à laquelle ils écrivent, c'est l'époque où on passe d'un ancien symbolique ancien explicite à une nouvelle symbolique implicite. Et aujourd'hui, on est dans ce monde-là. Alors, quand il dit, est-ce que des concepts comme animus, anima ou phallus, etc., est-ce que peuvent encore décrire aujourd'hui un monde dans lequel justement il n'y a plus. Donc est-ce que, alors pour le dire, pour vous poser la question autrement à l'envers, est-ce que d'une certaine manière, quand ces auteurs comme Jung et Freud pensent qu'ils décrivent des processus qui se sont réellement passés pendant la formation de l'enfant, donc la petite fille, le petit garçon, la petite fille. Elle se définit par rapport à ce qu'elle n'a pas, elle a une envie de pénis, mais elle n'a pas de pénis, etc. Ou alors quand Jung définit des archétypes animus, donc anima, et puis qu'il retrouve des archétypes. Bon, évidemment, dans un monde qui a été où les hommes ont exprimé, je dirais, structuré leur expérience autour de ces notions-là, qu'on va évidemment retrouver partout, puisque c'est véritablement. Des structures très profondes de l'établissement humain qui ont complètement changé aujourd'hui. Et le problème, c'est d'essayer de. Est-ce que je pose simplement la question, est-ce que ces concepts-là sont encore à même aujourd'hui de décrire, mais je n'ai pas de réponse, sont encore à même de décrire le nouveau monde donc, et les nouvelles configurations dans lesquelles nous sommes.
Et peut-être pas de décrire le nouveau monde, mais de décrire des dispositions que l'on voit encore à l'œuvre et toujours dans la clinique. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas pour je ne pense pas que ça décrit le monde. Mais voilà, moi, il me semble qu'il y a quelque chose qui s'est incorporé et qui se déploie, qui se montre, qui se phénotypise, qui continue de se phénotyper. Mais voilà.
Oui, mais c'est parce que toi, enfin, vous parlez d'époques différentes et donc de choses différentes. Je pense que quand toi tu parles de noyau féminin et masculin, alors que toi tu parles de genre d'homme et de femme, quand Freud parlait, ou même Jung parlait à l'époque, il associait masculin avec homme, féminin avec féminité.
Pas totalement. Jung pas.
Jung peut-être moins.
Mais bon, Freud, animus, anima, c'est quand même le.
Bon, la définition de l'animus,
c'est aussi. Ici, tu as bien dit que c'était des noyaux, parce que quand Diane expliquait un peu comment fonctionnaient les couples qu'elle voyait avec les enfants maintenant, clairement, tu te disais qu'il y avait un noyau féminin très important chez les hommes divines.
Il est appuyé, mais il est à l'état natif. Donc la bisexualité psychique, pour Jung, c'est incontournable, enfin vraiment, il le voit vraiment. Et même la façon dont il décrit l'animus, il l'entend, il le constate chez les femmes. Parce qu'il dit, c'est ce que la femme a incorporé de l'homme du fait qu'il a vécu avec des hommes. La femme, en général, tu vois, donc c'est un inconscient, c'est très bizarre d'ailleurs. Mais sa définition, c'est comme ça. Donc, il part vraiment de la. Tu sais, bon, c'est un gars qui a une pensée très, très asiatique, hein, donc de la dualité, de la tension, hein, donc de la projection, c'est quand le yin et yang, enfin, le genre de choses. Hein, donc, c'est comme ça qu'il.
Non, mais voilà, c'est parce que je vais prendre un autre exemple pour essayer de montrer. C'est parce que pour moi, c'est un truc qui me tracasse. Le symbolique explicite, le symbolique implicite. Bon, symbolique implicite, c'est quoi ? Quand Notre-Dame de Paris brûle, Notre-Dame de Paris, bon, ça touche, ça crée une émotion mondiale, donc il y a bien quelque chose qui est signifié, une émotion qui a une signification dans le contexte, dans le contemporain dans lequel on est, que l'on peut nommer, alors qu'on va essayer de nommer de différentes manières. Il y en a qui vont dire, mais ça a à voir avec l'histoire plutôt de la nation française, oui, mais ça a à voir avec la religion catholique, donc finalement ça ne concerne pas. Il y en a beaucoup qui vont dire, mais enfin, ça n'a pas de sens. Bon. Mais en fait, il y a quand même une émotion mondiale qui a touché. Mais avec une. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire qu'il y a quand même un temps. On est quand même dans un temps relié à tous ces gens du passé, à tous les hommes qui nous ont précédés, et on appartient quand même à un monde dans lequel il y a en tout cas des cathédrales, parce qu'on a construit des cathédrales, etc. Bon, ça c'est le symbolique implicite, donc c'est une signification, mais dans laquelle on reste, qui provoque de la sidération. Bon, pourquoi est-ce qu'on est aussi touché par ça? Franchement, pourquoi? Bon, il y en a qui l'ont dit d'ailleurs, bon. Quoi, c'est des pierres, merde, on n'a rien à foutre. C'est pas la réaction.
Non, ce qui est intéressant pour pousser plus loin, c'est qu'en plus, ils ont très clairement dit que la tour Eiffel serait par terre, pour une raison ou une autre, ce ne serait pas la même émotion que Notre-Dame de Paris.
Mais c'est pas la même, quand même, c'est pas la même époque. Hein.
Non, non, mais en tant que. Non, non, mais en tant que
oui,
nation,
ça représente,
en tant que nation, il y a autre chose.
Enfin, si on discute, c'est parce que c'est pas clair, c'est parce qu'il y a plusieurs. Il y a des interprétations aussi, d'ailleurs, en avant. Mais le symbolique explicite, celui qu'ont mis en œuvre les bâtisseurs des cathédrales, ceux qui ont fait les cathédrales, ils savaient exactement ce que ça voulait dire. Voilà pourquoi il faut mettre telle statue là, et là il faut mettre la statue de tel saint, et Jésus-Christ, il faut le mettre là, et la croix, c'est comme ça, à telle place, et là en dessous, on met tel truc. Et toutes les cathédrales sont complètement de part en part, avec des significations qui nous échappent. Il faut aller les rechercher dans l'histoire, dans les. Bon. Donc c'est quand même des économies de la signification très différentes dans lesquelles on vit aujourd'hui. Alors, bon. Je prends cet exemple-là parce qu'il me semble assez illustratif. Maintenant, comment dans le domaine du masculin et du féminin, comment est-ce que ça se traduit? Est-ce que on peut encore, est-ce que donc ces concepts qui étaient encore par Freud, que Lacan, Freud, Jung ont encore mobilisé, est-ce que ils tiennent la route après? Justement, qu'il y ait eu ce changement d'univers, de convergence des genres, qui oblige, qui fait.
Eh bien, moi je te répondrai cliniquement oui. C'est-à-dire que mes 40 ans, je trouve que s'il y a un truc qu'on ne cesse de voir à l'œuvre, c'est ce centripète centrifuge. Je trouve que c'est hallucinant de voir le déploiement de ce truc. Moi, je trouve ça vraiment très, très. Voilà, pour répondre à ta question, moi je dis oui. Mais, alors c'est ça, donc est-ce que c'est uniquement le produit d'une époque?
Non, c'est pas le produit d'une époque, c'est des structures donc, mais, oui. Qui ont été réfléchies, qui ont une réflexion collective pas vraiment oui. Consciente, qui a. Et dont Jung se situe dans qui a mis en place ces mots pour rendre compte de ce que de la façon dont on symbolisait, donc on signifiait l'existence dans le monde de deux manières d'être, une qui était hiérarchiquement dominante par rapport à l'autre, etc. Mais laissons la question ouverte parce que.
Oui.
Bon, mais alors, venons-en maintenant à.
Alors, moi, je pris un petit cas.
Tu veux parler plus fort?
Oui, je sais.
Pour les sourds.
Oui. Pardon. Alors, parce que j'ai fait ça de manière très moderne, j'ai écrit tout là-dessus. Parce que d'abord, je voulais revenir sur l'idée de l'égalité. Hein, donc on a quand même beaucoup parlé des genres maintenant. Il y a quand même un endroit où il n'y a pas du tout d'égalité des genres, c'est qu'à l'hôpital psychiatrique, en tout cas en service général, pas peut-être un service lourd, mais il reste nettement plus de femmes que d'hommes. Les hommes, sur 30 patients, il y a 10 hommes et il y a 20 femmes. Toujours.
Dans quel milieu?
Dans le milieu en psychiatrie générale, quoi, l'hôpital. Mais qui donc n'est pas à psychiatrie lourde. Donc j'exclus, si tu veux, les schizophrènes, où là, normalement, il y a plus d'hommes que de femmes, parce que les schizophrènes hommes sont plus violents, et donc forcément adressent plus à l'hôpital que les femmes. Mais dans le service de psychiatrie, tu vois, ouvert, il y a quand même nettement plus de femmes que d'hommes, ça n'est pas.
Quel pourcentage, tu disais?
Moi, je pense que sur 30, en moyenne, on a 10 hommes et 20 femmes.
Un tiers de
tiers.
La Codine, je ne sais plus combien on avait, mais on a dû. Enfin, facilement trouvable. Voir.
Moi, j'ai fait comme ça au pif ces dernières semaines, mais je sais que c'est toujours plus ou moins comme ça.
Un quart, trois quarts.
Tout est dans la douleur.
Oui, mais dans la fibromyalgie,
Oui, c'est ça.
Alors, j'avais envie de... Parce qu'on a beaucoup parlé de... Justement, de ces femmes où il y a un noyau masculin important et qui sont, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui ne veulent plus être dépendantes et ne plus être redevables. Et je me suis demandé, au fond, mais que deviennent les femmes dépendantes? Et donc, je vais vous raconter l'histoire d'une dame que j'appelle Juliette, qui s'appelle pas du tout comme ça, et qui a 42 ans. Et elle est l'aînée d'une fratrie de 9 enfants. Elle s'est mariée à l'âge de 18 ans pour fuir sa famille avec un homme avec qui elle a eu 3 enfants qui ont maintenant 23, 21, 18 plus ou moins, peut-être 24, 22, 19 ans. Et dans son histoire familiale, donc il y a 9 enfants, il y a 6 filles et 3 garçons, et elle, pour commencer, mais après d'autres aussi, ont été abusés par le père. La mère n'a jamais quitté son mari, si ce n'est au moment où une des filles, qui doit être la troisième ou la quatrième, s'est mariée. Et donc cette fille, à l'âge de 14 ans, a dû avorter. Et au cours du repas de mariage, on a annoncé qu'en fait le père de cet enfant était le père de la fille. Et donc, il y a eu un gros scandale, comme vous pouvez imaginer, au cours du festin. Et suite à ça, la mère s'est séparée du père. Autrement, elle était... Alors évidemment, elle ne pouvait pas ne pas savoir ce qui se passait. Ça, c'est pour dire à quel point, dans cette famille-là, clairement, on ne se séparait pas, malgré tout ce qui pouvait arriver. Et elle, par contre, elle se sépare de cet homme qui l'a aidé à chez elle, qui est un type qui travaille, qui est une gobelle, tout ce qu'il y a de plus normal, parce que son fils aîné, à l'âge de 7-8 ans, développe une leucémie. Et elle quitte son mari parce qu'elle trouve qu'il n'était pas assez présent au moment où son fils a été malade. Et alors, après ça, elle se met en couple avec un homme d'origine algérienne, avec qui elle a une fille, qui était très directif. Cette fille a 11 ans maintenant, et directif au point où, quand elle a quitté son premier mari, elle est partie avec les 3 enfants. Et là, les 3 enfants sont partis, donc il était adolescent à ce moment-là, plus ou moins, ils sont partis revivre chez le père. Et donc, elle est restée seule avec ce type et sa petite fille. Et bonhomme qui a fini, après 3-4 ans, il la quitte. Il la quitte et elle dit, je lui ai laissé prendre l'enfant parce qu'autrement, on était partis dans des bagarres terribles parce qu'en fait, lui, ce qu'il voulait de moi, au fond, c'était que je lui fasse un enfant et il ne voulait rien d'autre. Et actuellement, elle a cet enfant un week-end sur deux. Et elle me dit, je sens que ça commence à être difficile parce que c'est l'adolescence et que moi, je ne suis pas capable de mettre des limites.
Ça, une fille.
C'est une fille. Et par contre, tu vois, une fille de 11 ans, il faut m'imaginer dans le bourrinage, maquillée, machin, et que le père n'a rien, hors de question. Il y a deux modèles, un peu compliqué. Et puis, elle se met en couple, cette fois-ci, avec un homme d'origine turque. Qui est turc, d'ailleurs, il n'est pas d'origine turque, il est turc. Avec qui elle a un enfant, qui a actuellement 8 ans. Et il y a 3 ans, il a dit, oui, mais je vais en Turquie. Et il est allé en Turquie et il a récupéré femme et enfant turc qu'il avait là-bas. Il a ramené tout le monde et il a voulu que tout le monde vive ensemble. Alors là, c'était très compliqué pour elle, mais à un moment donné, elle a quand même décidé de ne pas vouloir vivre dans la polygamie comme ça. Et elle est partie pour vivre seule. Et à cette période, elle a commencé à avoir beaucoup de séjours en psychiatrie suite à des tentatives de suicide. En fait, elle arrivait chaque fois aux urgences et puis elle était hospitalisée. Et nous, on la suit maintenant depuis un an. Alors, cet enfant-là, elle s'en occupe pas beaucoup non plus. Elle est censée l'avoir une semaine sur deux, mais elle n'a jamais une semaine sur deux. Et parfois, elle dit, ah ben oui, il m'a dit que maintenant, il partait 2 mois en Turquie, ben donc je sais que je ne verrai pas mon fils pendant 2 mois. Ah oui, il devrait être vu par le PMS, parce que je sais, il y a des problèmes, mais le père, ben, il ne veut pas que l'enfant soit vu. Elle démissionne complètement, comme ça, devant ses pères.
Par parenthèse, elle vient pour quel type de tableau clinique?
Alors, elle vient parce qu'elle a fait encore une énième tentative de suicide, qu'elle a été à l'hôpital général, nous, on n'a pas d'urgence. Et, et ça, c'était il y a un an et demi maintenant. Ici, depuis qu'on l'a prise en charge, elle ne se suicide plus. On fait des hospitalisations programmées. Et où elle, au début, elle venait tous les 2 mois pendant 15 jours. Et maintenant, elle vient... je crois qu'on en arrive plus ou moins à 6 mois, ou bien 15 jours, tous les 6 mois, mais c'est une obligation pour faire la posture chez nous.
C'est votre mode, oui, c'est ça.
C'est notre mode obligatoire de fonctionnement. Ouais. Et là, depuis qu'on la suit, évidemment, donc elle a un peu travaillé un peu cette séparation avec ce Turc. Entre-temps, elle s'est mise avec un autre qui était plus jeune qu'elle, mais extrêmement violent, d'origine marocaine. C'était très compliqué de se séparer parce que le bonhomme était évidemment venu vivre chez elle. Il voulait avoir un enfant d'elle, mais là, elle s'est dit que ce serait quand même peut-être bien de ne pas faire un enfant. 42. Et donc, elle n'en a pas eu et elle a réussi à quitter cet homme. Et pour le moment, elle est seule sans être seule parce qu'elle est toujours, il y a toujours un homme au bout de son téléphone. Mais elle habite seule. Et
elle n'a pas d'enfant avec elle.
Elle n'a pas d'enfant avec elle. Et quelque part, elle dit qu'elle n'est pas une bonne mère, qu'elle n'est pas capable de s'occuper de ses enfants, et que de toute façon, les pères, eux, ils veulent s'occuper de leur enfant. Et donc, elle laisse les choses comme ça. Même si nous, on essaye de la rendre au niveau plus acteur, au niveau de sa maternité. Les 3 aînés, ben, elle les voit vraiment très très peu. Donc il y a la petite qui vient un week-end sur deux, et le dernier fils qui est censé venir une semaine sur deux, mais il vient jamais une semaine sur deux. Déjà, à chaque fois que c'est les vacances, il part en Turquie. Et puis quand elle est hospitalisée, ben, forcément, il ne vient pas. Et puis que... quand son fils refuse aussi de venir quand il n'y a pas un autre homme à la maison. Donc quand elle était avec le type qui était violent, alors son fils venait. Parce que là, il y avait une bonne connexion entre cet homme-là et le gamin. Et puis maintenant qu'elle a mis le type à la porte, il a trompé aussi vraiment. On passe. Et donc elle a fini par faire en sorte qu'il ne soit plus chez elle. Eh bien, alors le fils ne voulait plus venir. Parce que quelque part, il n'y avait plus d'autres hommes avec qui être à la maison. Et donc, depuis, elle fait toujours plusieurs rencontres, mais chaque fois avec des hommes violents ou possessifs. Et donc, voilà. Et ici, elle a fait l'expérience. Évidemment, l'idée, c'était comment ne pas rentrer... où l'hôpital devienne son lieu de dépendance, justement, parce qu'en fait, elle est extrêmement dépendante de la relation à l'homme, et elle dit, je ne peux m'occuper d'un enfant, ce n'est envisageable pour elle d'avoir un enfant que dans le cadre d'un couple.
C'est ça.
Tu vois ?
Ouais.
Mais je pense que c'est ce qu'elle a vécu avec ses propres parents. C'est la mère, envers et contre tout, est restée avec le père et les 9 enfants, quand même, et ne l'a jamais quitté, sauf au moment où il y a eu... Bon, il faut savoir que dans les 9 enfants, il y en a 3 en prison, il y en a 3 toxicomanes. J'ai envie de dire,
et donc
parce
l'enfant appartient au père, quand même, dans son chemin familial de base.
L'enfant appartient au père.
Et elle voit cette relation.
Non, elle les voit très peu parce qu'elle est très attachée à sa mère. Mais alors la mère, elle a exactement 17 ans plus qu'elle, hein, donc il faut imaginer, la mère, elle a 50, elle n'a pas 60 ans. Et quand elle vient de rendre visite à l'hôpital, parce que, moi je ne l'ai pas vue, mais les infirmiers m'ont raconté comment était la mère. C'est une espèce de bimbo avec une mini-jupe assez hallucinante, blonde décolorée, enfin, tu vois. Et ici, elle, c'est pas du tout. C'est quelqu'un qui a. Elle est assez classieuse, comme je dis.
Ah oui.
Tu vois, elle n'est pas du tout, tu ne dirais pas qu'elle vient d'un milieu comme ça, très très défavorisé. Au contraire, elle a une certaine allure. Bon, elle a pris un peu le poids maintenant, depuis qu'elle est chez nous, mais autrement, elle a une certaine allure. Et donc voilà, c'était toute ma question, au fond, que deviennent comme ça, dans notre système, les femmes qui sont dépendantes, vers qui est-ce qu'elles se tournent, est-ce qu'elles peuvent trouver un équilibre avec un homme chez qui le noyau féminin devient important, maternel, et que très bizarrement, ces hommes qu'elle décrit vis-à-vis d'elle très, très masculins, ont visiblement une part de féminin vis-à-vis de leurs propres enfants. Mmh. Tu vois, une espèce de...
Oui, de convergence.
Oui, et au niveau... C'est comme si ce n'était pas la même au niveau du couple et au niveau des enfants.
Donc, tous les hommes violents dont tu as parlé, toute la série, mais qui s'occupent des enfants alors qu'elle ne s'en occupe pas, oui. Comme expression du noyau maternel chez ces hommes-là.
Chez ces hommes-là.
C'est un peu étonnant.
Et combiné alors avec le fait qu'ils sont hyper violents et
oui,
que...
Oui, c'est ça, au niveau du couple.
Et tu ne parles pas du tout.
Et quand j'ai amené ce cas-là, mais j'en ai d'autres du même acabit. Hein.
Et tu ne parles pas de la violence de l'homme vis-à-vis des enfants. Elle n'existe pas, selon la mère.
Non.
Et ça serait possible qu'elle soit dans le déni.
Non, je ne pense pas. Non, parce qu'elle me décrit, par exemple, le dernier qui a 8 ans, là, au contraire, une absence de limite, quoi. Elle dit, oui, il laisse partir mon fils, il a quand même que 8 ans, à 11h du soir, il est dans le camion avec le fils aîné de la famille turque, là, et ils sont partis jusqu'à Charleroi, et je suis même pas sûre que le camion est assuré. Enfin,
tu vois, donc s'il y a un noyau maternel chez ces hommes, c'est pas du tout ce qu'on appelle le maternel contemporain, parce que les mères d'aujourd'hui, elles ont de l'autorité, c'est pas le profil que tu décris.
Ah non, c'est pas maternel contemporain, c'est le...
Oui, c'est ça. Tu veux dire que ce type est la combinaison des deux archétypes que Verdun nous a présentés, quoi. Enfin, ces types-là, ils sont à la fois centripètes et centrifuges.
Oui, c'est ça, oui.
Mais en général...
Mais au niveau du couple et au niveau de l'enfant, c'est ça qui m'a marqué, tu vois, c'est...
T'as l'impression que c'est pas la même chose au niveau du couple et au niveau de l'enfant. Ils se rejouent pas la même chose.
On pourrait presque dire qu'elle a fait des enfants aux hommes.
Ah, mais
en général, on dit qu'elle traite.
Elle l'a dit. Elle dit qu'il y a un homme, clairement, elle me l'a dit, texto, lui, je lui ai fait un enfant.
Oui, mais est-ce qu'elle a encore une sexualité?
Ah oui.
Avec son conjoint?
Avec différents, hein.
Oui, qu'importe. Mais c'est ça.
Et ces hommes qui veulent des enfants, t'es sûr que d'elle, oui.
Oui.
Que c'est pas le profil, par exemple, des hommes qui ont leur bureau. Donc, par exemple, ces hommes d'origine africaine qui ont leur bureau, et donc c'est-à-dire qu'ils sont un peu dans le côté traditionnel.
Ah, mais ce sont en tout cas, elles se tournent si tu veux.
Oui, je sais
plus. Deuxième bureau, troisième bureau.
C'est bureau qu'ils appellent ça, non? Ils ont des expressions. Et donc, ils sont dans la logique traditionnelle. Un homme fait des tas d'enfants parce que.
Ah oui,
il procrée, c'est un patriarche, quoi, tu vois.
Oui, mais c'est parce que tu vois, elle se tourne comme. Elle est très très dépendante, cette femme. Quelque part, elle se tourne vers des hommes qu'elle pense être. des hommes patriarches dans la culture, une autre culture, qui n'est pas notre culture, qui est encore une culture où les hommes ont une place d'homme qui décident.
C'est ça, donc ils sont dans cette culture-là, tu penses?
Et, ben, oui, le deuxième algérien, le troisième turc, le quatrième marocain. Et en tout cas, avec des côtés très machos, comme tu peux les imaginer. Et qu'au fond, même avec ces hommes-là, si tu veux, ben, il y a une part, enfin, il y a quelque chose qui fait qu'ils la quittent quand même pour les enfants. Tu vois, ils partent avec l'enfant.
C'est pas... Mais parce qu'à chaque fois, tu crois que c'est... Parce que avec le premier, bon, c'est elle qui le quitte.
Non, ça, elle le quitte, il n'a pas été assez... Elle le quitte,
mais l'Algérien, elle le quitte.
Elle
oui. L'Algérien?
Oui.
Non, c'est lui qui...
C'est lui qui part.
Et le Turc aussi. Ben, c'est-à-dire que le Turc, il aurait bien aimé la garder comme deuxième bureau. Ah, parce qu'elle a accepté un certain temps. Et puis, à un moment donné, si tu veux, elle était tout le temps en souffrance, là. Elle se suicidait très régulièrement, là.
Mais donc, elle a quand même deux fois sur quatre, même trois fois sur quatre dans son couple, opéré elle-même la séparation.
Ah non, 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 non,
non, non. Bah, enfin, avec le Belge, si.
Avec le Belge, c'est le seul pour qui elle a opéré
la séparation. Après, le Turc, elle est partie, elle a choisi de ne pas être dépendante de son système. Pour une femme dépendante,
difficile. Partir, très, très, très compliqué.
Et après, elle a choisi de ne pas partir. Bon, elle était soutenue par nous.
Violent, elle était soutenue par nous. Hein. Et vachement.
Eh bien, c'est quand même des gestes suicidaires qui sont quand même les gestes les plus autonomes qui soient.
Oui.
Mais bon, ça peut être aussi je m'en vais parce que je ne suis plus de ce monde, oui, je n'ai plus de chemin. Comme on dit à Bruxelles.
Est-ce qu'elle a envie d'être indépendante? Elle vit par sa dépendance.
Elle vit, oui, c'est ça. Alors, étonnamment, c'est une femme qui n'est absolument pas dépendante, contrairement à ses soeurs qui sont toxiques. Elle n'est pas du tout toxicomane, elle n'est pas du tout alcoolique.
Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on appelle dans la biographie la personnalité dépendante, à savoir... Bon, sa personnalité dépendante, il faut bien comprendre, ça peut être une personnalité sur les 50, hein, une personne qui est hésitante, qui demande toujours l'avis des autres, qui ne sait pas prendre, elle est comme ça.
Elle est comme ça. Et quand je lui dis, après un mois, maintenant vous devez quitter l'hôpital, elle me dit, si vous me faites partir, je vais me suicider, tu vois.
Elle est dépendante aux hommes, hein, plus qu'à autre chose, hein.
Bah, regarde au système aussi.
Elle n'est pas dépendante de ses enfants, pas dépendante.
Ce que tu racontes, ça m'a fait penser à un truc à une pierre spécialisée. C'est que chez les jeunes filles, au départ, beaucoup de gens pensaient qu'en fait elles étaient complètement radicalisées. Beaucoup de gens pensaient qu'en fait il y avait un grand manitou derrière qui leur retournait le cerveau et puis qui partait. Ça, on en est sorti.
Pourtant, le dernier film.
Oui,
le frère Dardenne.
Voilà. Le frère Dardenne, c'est autre chose, c'est de l'art. Et donc là, le truc, c'est que, par contre, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que chez les jeunes filles, il y a beaucoup de convertis, ou de reconvertis. Qui n'étaient pas dans la religion au départ, soit qui étaient. Voilà. Et donc là, il y en a quand même beaucoup plus que du côté des garçons. Et ces jeunes filles, on en a quand même pas mal, c'est les cas qui nous ont peut-être le plus marqué, c'est qu'elles avaient toujours un mouvement d'indépendance vis-à-vis de leur famille. Radical, ce mouvement d'indépendance. Donc elles mettaient tout en place pour se séparer de leur famille. Et ce qui est intéressant, c'est que pour aller faire quoi? Pour aller recréer une autre famille, souvent en Syrie, avec le truc, le hijab et tout le machin.
Oui, et une famille qui, en général, est celle qui se convertit, qui ne sont pas de religion musulmane.
Oui, c'est ça.
Oui.
Mais avec le côté très fort, donc en fait, une contradiction
d'indépendance dépendante.
Voilà, énorme. Et donc c'est nous, c'est par exemple, c'est un des leviers qu'on a utilisé, c'est cette contradiction qui apparaît à chaque fois.
Oui, mais parce qu'elles sont indépendantes d'une famille qui n'est pas contenante. Tu vois, pour selon moi, mais moi ici c'est ça, c'est une famille qui n'est pas contenante, hein, cette famille-là. Et donc, elle a besoin d'aller trouver, elle quitte sa famille, entre guillemets, mais pour trouver un endroit où il y a de la contenance.
Ouais.
Parce que ça la rassure, quelque part.
Mais, par exemple, ce que tu retrouves beaucoup plus du côté des filles, c'est ces dimensions-là. Ouais. Tandis que chez du côté des garçons, il y a un projet, alors après, on débat, mais plus politique derrière. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une quête, quelque chose comme ça, qui n'a rien à voir avec fonder une famille, etc. Les deux ont à voir de deux côtés avec la question de l'identité,
oui.
et de se donner une identité, et donc d'accéder à être un individu avec des côtés traditionnels, en fait, c'est ça aussi qui est une contradiction. Et donc c'est une autre contradiction sur laquelle on peut travailler. Mais c'est pas le même moteur du côté des jeunes filles. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui sont partis, mais voilà. Et l'autre truc, c'est qu'elles se détendent plus facilement. Alors, étonnamment, c'est que elles étaient plus facilement repérées, les jeunes filles et les garçons. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on laissait passer. Plus aux garçons que du côté des jeunes filles. Déjà parce qu'elles mettaient le poids.
Oui, mais c'est ça.
Voilà.
C'est parce que là, tu prends le côté radicalisé, et tu as, sans être radicalisé, tu as énormément de jeunes filles comme ça qui partent de leur famille, qui se convertissent et qui rentrent en tout cas dans un système beaucoup plus contenant, où elles mettent un voile et tout ça, mais sans pour ça être toujours radicalisées.
Oui, oui, oui.
Et puis il y a aussi des autres filles qui sont très politisées aussi, enfin, elles ne lâchent pas le bras de celles qui se sont converties, mais qui sont des musulmanes de souche.
Ah, qui partent
et qui, elles, non, non, qui, si elles sont ici et qui me portent le voile comme un étendard, il y a toute une étude qui a été faite par rapport à ça, qui est en fait une manière de soutenir les hommes de la communauté qui, eux, sont vécus comme étant rejetés par la société occidentale, donc je sais que le voile est là, un truc qui vient dire, mais non, nous, en tant que femmes, on soutient nos hommes, enfin voilà.
C'est
éminemment politique chez ces femmes-là.
Oui, mais c'est une très faible minorité et elles sont souvent plus grandes, c'est pas des filles de 14, 15
ans. Moi, c'est ça, c'est vrai que je vois, hein, pas, moi, je parle dans les écoles, je fais l'éducation des races et c'est. Ces filles qui ont un discours purement politique, et elles ont 14, 15, 16, 17 ans. Hein.
Oui, mais ça n'a fait pas. Moi, je travaille dans toutes les écoles de toute la fédé. Et c'est pas du tout le. C'est pas. Il y en a, mais par exemple, ça n'en fait pas. On en retrouve plus ce mouvement-là, majoritairement, du côté des garçons. Alors qu'en plus, ils vont utiliser plein d'autres problématiques derrière, mais je veux dire. C'est pas un mouvement en tant que tel, quoi. Il y a pas.
Je parle pas des radicalisés, hein. Je parle pas des radicalisés. Je parle de ces filles qui portent de voix.
Elle affirme, elles affirment de plus en plus leur identité par rapport à ça. Donc c'est la logique qu'on trouve partout par rapport. Qui est en plus en.
Est-ce qu'elles mettent les voiles
exponentielle par rapport à cette question-là, mais qui est la formation d'identité, mais qu'on va retrouver. Par exemple, si on radicalise cette position, et donc on va monter un certain nombre de choses, du côté des filles, il y a un projet derrière, mais qui ne va pas justement être ce projet politique, qui va être axé sur la dimension dépendance, indépendance, avec la question de la vie. Et du côté des garçons, avec une quête, avant ils partaient, maintenant ils ne partent plus, c'est un autre problème. Voilà. Avec en plus en prison le fait que. Alors, après, je ne sais pas. Pas le retour des prisons de femmes, mais le retour des prisons d'hommes avec le fait qu'en plus ils se. Ils ont tellement bien, ceux qui sont en prison, ils ont tellement bien digéré. J'ai pas mes notes parce que en plus c'est tout récent, donc c'est tout frais dans la tête, mais ils ont tellement bien intériorisé les hommes, le discours des droits de l'homme, que toute leur position est aujourd'hui défendue sur la question des droits d'auteur. Ils disent des termes qu'il faut voir. Moi, j'ai dit, c'est incroyable, c'est toute une enquête qui est faite pour l'instant à la prison. C'est complètement.
Par le biais du droit.
Ben, c'est-à-dire qu'en fait, c'est sous couvert des droits de l'homme qu'ils peuvent être comme ça. Oui, on doit les autoriser à avoir à développer leur radicalité, etc. Parce que sinon.
Si je me souviens bien aussi, mais je ne sais pas si on peut généraliser, mais ces jeunes filles radicalisées, elles avaient aussi un projet qui consistait, notamment à l'époque où Daesh existait, elle avait un projet là-bas d'État islamique, d'aller trouver des vrais mecs, parce qu'elles se plaignaient.
Oui, c'est ça.
En fait, elles se plaignaient par rapport à notre question d'un manque de lisibilité, justement, parce que c'est un homme et une femme ici, et que les hommes ne leur apparaissaient pas être des vrais mecs, et que là-bas, elles allaient chercher... des vrais mecs, avec le paradoxe qu'en réalité, évidemment, quand elles arrivaient sur place, elles étaient très déçues puisqu'elles tombaient sur des gars qui jouaient aux jeux vidéo et qui vivaient comme s'ils étaient dans un clip de rap, quoi. Donc on était quand même très très loin du chevalier.
Et puis le ressort de ça, ce qui était très comique, c'est que Daesh avait créé un espèce de site de rencontre mythique, machin, pour ces jeunes filles et mettre en lien... Alors, il y avait personne derrière, c'était toujours les trois mêmes communicants derrière qui faisaient plusieurs profils, et qui se mettaient en scène et donc qui attiraient.
Oui, ils faisaient des mariages musulmans à distance et après, ils allaient rejoindre là-bas. Ouais.
Moi, je me disais pourquoi vous mettez le débat un petit peu ailleurs, si c'est la question. Je vous l'ai dit, un petit truc, ça dure deux secondes. Hein. Donc, le genre consiste davantage. En identité tissée avec le temps par des fils tellement posés dans un espace extérieur par une répétition stylisée d'actes. C'est exactement ce que tu disais.
Ouais.
Et en fait, c'est Butler qui dit ça.
Qui ça?
Judith Butler, qui est féminisme queer. Et donc, par rapport à cette question-là, enfin, je pense que de travailler, de réfléchir sur ce que dit le transgenre. Permet justement de voir ce que dit le féminin, masculin, et là où ça pose problème. Tu parlais du fait que les hommes, il faut savoir qu'au niveau de la transformation corporelle, les personnes, donc en Angleterre, ces 5 dernières années, ça a été multiplié par 4, et en Australie, par 200%, c'est à 200% de demandes en plus au niveau des transformations sexuelles. Et 70%, c'est les femmes qui demandent à devenir des hommes. Ce qui est tout à fait nouveau, en fait. Avant, c'était beaucoup plus rare, et c'était des hommes qui demandaient à être des femmes.
Ben, moi, les deux
et donc, ce qui a explosé, c'est... Pendant les chiffres que j'ai les données et tout le temps, ce qui a explosé aujourd'hui, c'est les femmes qui veulent devenir des hommes.
Des hommes qui sont devenus des femmes, c'est vrai.
Mais
justement, je me demandais à quel chiffre on était.
Oui, enfin, maintenant, il faut voir parce que de passer à 200% sur les
échantillons, c'est pas personne.
Comment ? Non, c'est des chiffres. Enfin, je peux vous envoyer
les données. 200% en Australie, rien. Donc, 200% de
progression.
En 10 ans.
Une femme qui devient un homme, est-ce que ça veut dire qu'on lui met un pénis ?
Oui, tout à fait. Oui,
c'est l'opération complète.
C'est en Australie, c'est eux, je crois, qu'ils ont les plus...
Non, mais ils peuvent le faire comme ça aussi, il y a pas mal de pays aujourd'hui où tu peux échanger ta carte d'identité, dire que tu es un garçon d'enfant, mais on parle de... Ici, on parle de transformation, hein. Oui, et aux États-Unis, ils commencent déjà, donc les études, ils disent qu'il faut commencer avec les hormones à partir de 8-9 ans, pour pas que les organes soient... Enfin, on voit bien que c'est une machine financière énorme, hein. Enfin, derrière ça, il y a...
Il y a un film intéressant là-dessus, un film belge qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Girl.
Oui,
avec donc un garçon du point de vue biologique mais qui se vit comme étant une fille, donc il s'appelle Victor mais on l'appelle Lara. Et qui en plus veut un projet de ballerine, bien ballerine, de danse professionnelle. Et c'est un matériau très intéressant. Alors, la conclusion du film est assez perturbante, parce que finalement, ce que le film montre, c'est ce que Jean-Marie avait expliqué au début, c'est-à-dire la difficulté, finalement, d'articuler le genre avec la biologie. C'est-à-dire ce gamin, en fait, il a un corps qui lui pose un vrai problème pendant tout le film. Il me semble que la conclusion est très problématique dans le film, parce que tout le reste du film est très intéressant en montrant justement la tension, la difficulté qu'il a avec ce corps, et donc particulièrement avec son pénis, particulièrement. Mais ce qu'il y a aussi, et ça tu l'avais dit la dernière fois, je pense, c'est une autre dimension du problème, c'est, et qu'on retrouve dans le film aussi, c'est qu'il y a une désexualisation. Ce film montre bien une désexualisation au sens où ce gamin, en fait, n'arrive pas à devenir un individu en intégrant le fait qu'on devient un individu aussi en étant un objet sexuel pour autrui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler les projections des autres sur soi. Donc en fait, dans cette question du genre aussi, quand elle prend une forme très radicale, ce qu'on voit, c'est on voit aussi, et ça, c'est pas propre à ce gamin-là, je pense que c'est un problème des adolescents en règle générale, et même maintenant qu'on voit chez une partie des adultes, c'est l'incapacité à franchir ce bouleversement psychique qu'induit la puberté, de justement intégrer le corps sexué, et donc, au lieu de l'intégrer, en fait, ils se mettent dans une posture dans laquelle ils considèrent que c'est eux qui choisissent
ce que les autres
doivent voir d'eux.
Voilà.
Et avec tout le problème de la résistance du réel, évidemment. Alors, le problème du film aussi, autre problème à part la conclusion, c'est qu'il tend à focaliser uniquement sur la limite du corps. Alors qu'en fait, là-dedans, il y a une autre limite qui ne monte pas assez bien, c'est la limite, justement, de l'ancrage dans la société. C'est un problème de société. Ça fait partie de la socialisation d'accepter ça.
Mais ici, dans cette histoire, le père soutient le fils. Alors déjà, moi, un truc qui m'a frappé, c'est qu'il n'y a pas de mère.
Mais oui, évidemment.
Il n'y a pas du tout.
Il n'y a pas de mère.
Y a toute la question de la médicalisation. Parce que je veux dire, si ce tranche de pénis à la fin lui-même, c'est parce que ça va pas assez vite par rapport. Donc, c'est toute la question de la psychiatrisation, de la transformation du corps.
Oui, mais là, de nouveau, ça peut se lire aussi comme un problème typiquement adolescent, qui est la projection vers la fin, c'est-à-dire il y a de plus en plus d'ados qui ne supportent pas de franchir des étapes pour grandir parce qu'elles sont plus sanctionnées collectivement et qui veulent tout de suite atteindre la fin. Et donc, moi, j'entends beaucoup dans des fratries. Il y a le petit qui veut directement faire comme le grand. Et donc ici, dans son incapacité à attendre, il n'y a pas que le fait qu'il veut choisir d'être une fille. Il y a aussi ce truc-là, c'est qu'il veut sauter toutes les étapes.
Oui, c'est ça.
Il y a un problème de temporalisation.
Oui. Et de la tension qu'organise la transition, et qu'on entend, j'ai encore entendu récemment, donc, il y a quelque chose que fouille le contemporain, c'est le doute. Ne supporte pas le doute. Et j'ai compris quelque chose il y a un ou deux mois quand quelqu'un m'a dit, vous savez, quand moi je me déclare nul, et que je m'auto-détruis dans mes mots, quoi, sur moi-même, c'est pour être sûr de ne pas avoir à vivre le doute. Et ça, moi j'avais perçu des choses comme ça depuis longtemps. Je me souviens très bien d'un jeune ado qui a dit le doute, et il devient tout blanc. Je lui ai demandé qu'est-ce que vous pensez du doute. Il vient tout blanc et il dit le doute, c'est le début de la déconfiture.
Oui, mais par ailleurs, c'est une réaction par rapport à ce qui est quand même la situation dans laquelle on est tous, je veux dire, normaux ou pathologiques, c'est qu'on est dans un monde où tout le monde doute de tout.
Ce que je veux dire, c'est exactement comme ce dont on a parlé tantôt, c'est l'histoire. C'est-à-dire qu'il faudrait que déjà maintenant je sois. Et que, si tu veux, donc, devenir un adulte, on sait bien que c'est un processus et que ça va être un peu compliqué, on va être tiraillé, voilà, on va être tiraillé. Et on sait bien que le tiraillement, on ne supporte plus ça, et c'est pour ça qu'il y a des borderline, c'est parce qu'ils évitent justement le tiraillement et l'histoire. Et je pense que c'est cette incapacité à se vivre en histoire, en transformation, donc en tiraillement, donc en imperfection.
Mais sur fond de doute, c'est-à-dire sur fond du fait qu'il n'y a plus des trajectoires, des perspectives qui sont tracées par la société, qui te disent qui tu es, où tu vas,
ça, c'est clair.
Ta désymbolisation. Et rappelle-toi qu'on avait quand on parlait, on avait pris l'estime de soi,
oui, c'est ça.
On avait quand même accordé une importance déterminante au doute, en disant, bon, d'une certaine manière, je ne sais pas ce que les autres pensent de moi, et je ne sais pas ce que je dois penser d'eux. Est-ce que vraiment, et donc il y a les films qui renforcent ça aussi, cette expérience de, bon, on croyait qu'il était comme ça, et puis à la fin, les films américains, là, qui passent l'après, je ne regarde jamais, sur France, François, oui, vous regardez, vous avez plein de films comme ça, vous avez le type qui, tout d'un coup, on croyait que c'était un brave homme, et puis hop, il s'avère que c'est un gangster qui veut tout le bazar. Mais ça, ça ne fait que renforcer une expérience que, donc, traumatisant. Donc, l'estime de soi, on avait essayé d'interpréter comme, je ne suis pas sûr que je ne sais pas comment les autres m'estiment, je ne sais pas comment ils m'évaluent, je ne sais pas ce qu'ils pensent de moi, oui. Mais au moins, moi, oui. Il faut au moins que moi je m'estime, ça fera au moins un.
Oui, là, je m'estime, et puis je vais tenter de persuader l'autre.
Alors,
de
je
ma
pourrais,
propre estime.
Mais même à la limite, c'est surtout que je me persuade moi que je ne suis pas complètement nul, et donc c'est cette expérience du doute qui fait que. Bon, et dans le domaine intellectuel aussi, on ne sait plus, c'est très difficile d'évaluer, il y a une crise du jugement terrible dans tous les domaines. Qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qui n'a pas de valeur, qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que ça vaut.
Aujourd'hui, enfin, j'entendais l'autre jour qu'il y avait un nouveau algorithme qui permettait de refaire complètement, enfin, découper complètement des images, et donc de mettre votre tête dans Donc on pourrait avoir des discours filmés, comme un Obama qui a des propos racistes ou de machin. Et c'est du vrai que vrai, quoi. Enfin, je veux dire, et donc aujourd'hui, enfin, par exemple, la question du doute, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on sait que le doute, ben, quelque part, il est partout. Moi, je dirais plutôt que c'est ça. C'est quelque part, normalement, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'on ne s'empare pas du doute, justement, comme on s'empare d'une étiquette qu'on nous a collée pour justement diminuer l'angoisse, quoi. Donc c'est je peux tout faire, en fait, et d'ailleurs, tout est permis. Et donc le doute, il est partout, donc je peux tout faire, et je m'en parle du doute, quelque part, plutôt que de m'angoisser par le doute, d'être angoissé.
Oui, est-ce que le doute est partout, ou bien justement les repères ne sont pas clairs, et donc entre quoi et quoi je me situe, qui me mettrait en doute.
Je peux me situer partout, en fait, c'est ça le truc. C'est que je pourrais être partout, je peux être homme, femme, je peux être
entre les deux. C'est effectivement ce qui avait été pointé, j'ai entendu ça une fois dans ma vie, à propos de fameuses personnalités multiples, mm-hmm. où quelqu'un avait dit c'est l'individu de droit, en 2005. Mm-hmm. Et ben, je pense que.
Je me souviens une fois d'un étudiant, c'était à propos du. En 1992, qui me s'est arrivé près de chez vous. C'est dans cette période-là. J'étais à Liège, et alors à HEC Liège. Et je dis, la plupart des jeunes aujourd'hui, ils sont pas racistes comme ça. On utilise le mot raciste dans un sens très large, mais. Et vous n'êtes pas raciste. Ben non, pas du tout. Mais alors il me dit, mais enfin, bon, d'accord, je suis pas raciste. Mais vous croyez que le type qui se fait tabasser trois fois dans la rue par un arabe, il ne devient pas raciste? Je me disais, mais. Donc c'était comme s'il allait changer radicalement de personnalité, parce que raciste, c'est un mot très fort quand même. On l'utilise, il est complètement banalisé, mais ça veut dire quelqu'un qui vraiment. Et il utilisait ça. Donc j'en avais conclu qu'il doutait, il n'était pas sûr de ce qu'il était. Il se disait, bon, je suis comme ça, je sais que je ne suis pas raciste, mais si jamais. Et le problème de l'antiracisme amplifie encore ce genre de choses en faisant douter. Est-ce que vous êtes sûr que vous n'êtes pas raciste, quoi? Si par exemple vous trouvez qu'il y a trop d'immigrés, est-ce que vous êtes... Donc on est en permanence dans sur ce domaine-là, mais on pourrait le montrer sur des dizaines de domaines de la même forme.
Voilà, on conclut là-dessus parce qu'il est
11h04. Oui, il est 11h04.
Donc j'espère que vous avez laissé vos adresses mail. Donc on vous contactera, on vous fera une proposition pour la rentrée, pour l'année prochaine, puisque c'était la dernière séance de cette année. Et sur ce, on va se quitter autour d'un verre. Une seule fois. À bientôt.